D'accord. Donc on va commencer, Bezrat Hashem, le deuxième cours sur le huitième chapitre, un chapitre très 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 important, comme tous les chapitres de Guérin Tetchouva, comme tous les chapitres du Tania en général. Donc si vous avez le Tania, le livre rouge, c'est on prend à la page Tzadikret. D'accord? La page 90. Donc la page Tzadikret qui est la page 195. Alors je voudrais dédier le cours d'aujourd'hui à la mémoire, attendez, je vais vous dire le nom tout de suite. À la mémoire de. Comment il s'appelle? Ah oui, voilà, c'est là. Voilà. À la mémoire de Jacques Hakoun. Voilà, c'est j'ai quelqu'un pour mettre les mezouzot. Quelqu'un qui a un magasin à Ivry-sur-Seine, je pense qu'il va mettre les mezouzot et il m'a dit servez-vous.
Ah, d'accord, ok. Je crois que c'était Louis Nishmat.
Non, non, non. Oui, c'est Louis Nishmat. Louis Nishmat, quelqu'un de sa famille
Ouais,
qui est
d'accord.
quelqu'un.
Très loin que Hakoun qu'on connaît.
Non, je pense pas. Ok. Donc, Veiné Acharé Amakatada. De quoi on va parler dans Perekrea, dans chapitre 8. Chapitre 8. Une fois qu'on a expliqué dans les pratiques précédentes, on a expliqué dans les premiers chapitres qu'est-ce que c'est la Teshuvah, qu'est-ce que c'est l'essence de la Teshuvah. D'accord? On a expliqué dans les premiers chapitres, dans les premiers pratiques, on a expliqué que pour comprendre réellement pourquoi et comment il faut faire Teshuvah, il faut d'abord comprendre les rouages du système. Donc on a expliqué les rouages du système, comment un juif il est conçu différemment, il naît différemment, et il fonctionne différemment, et que quand il fait une mitzvah, ça n'a pas le même impact que si qu'un non-juif, et quand il fait une avéra, ça n'a pas le même impact qu'un non-juif. Ça, on l'a expliqué longtemps. Après, on a expliqué dans le chapitre 7, très 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 important, on a expliqué que dans les faits, comment ça se fait que, même si on apprend, on fait tous ces shiurim de Torah dans lesquels on nous explique l'importance et comment Israël est différent, etc. Pourtant, quand on est devant l'avéra, ça change rien. L'eau pagave et l'eau nagasse, ça nous fait ni chaud ni froid. On avance et on fait l'avéra quand même. Alors, c'est à cause de deux obstacles que David va nous répéter. C'est quoi les deux obstacles?
Alors,
Numéro 1,
comprendre l'enjeu.
c'est qu'on ne comprend pas l'enjeu, on ne réalise pas l'enjeu. Ça veut dire que on va étudier l'enjeu, mais on va pas réaliser l'enjeu. Est-ce que
Voilà.
vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut étudier, voilà, c'est comme vous avez quelqu'un qui va étudier Maïmonide, mais il réalise pas qu'il était Maïmonide. C'est ça le problème. C'est qu'on étudie, on va l'analyser de manière froide, mais quand on réalise pas la personne que c'était, on peut complètement, complètement se planter. Et c'est la raison pour laquelle je peux réaliser l'importance d'une mitzvah et juste après faire une avéra. Pourquoi? Parce que je l'ai réalisé seulement mentalement, seulement logiquement. Mais je ne vis pas la mitzvah, je ne comprends pas l'enjeu. Je ne perçois pas l'enjeu, on appelle ça percevoir en français. Celui qui ne perçoit pas l'enjeu, c'est évident qu'il va se planter. Et c'est ce qui se passe avec nous. Comment ça se fait qu'on fait un cours de Torah dans lequel on te parle d'une mitzvah et on n'a aucun scrupule à faire une avéra 10 minutes plus tard? C'est très simple. Parce qu'on ne perçoit pas la mitzvah. Donc, à expliquer la Gemara Zaken, ce qu'on essaiera de faire dans le chapitre suivant, c'est d'essayer de percevoir un peu plus le divin pour comprendre, David, pour comprendre
L'enjeu.
l'enjeu. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, le piège numéro 2, c'est l'ego. C'est quoi l'ego?
Comprendre que je ne suis pas
Le
parfait.
problème de l'ego, c'est quoi? C'est qu'à un certain moment, on se rassure. Tu dis, bon, tu sais, tu fais tes chouvas, pas mal, tu viens voir Hachem en cours de Torah, il y en a qui sont pas venus, toi t'es venu. Oh, Hachem, t'es un bon juif, quoi, la cavotte, t'aurais pu rester dormir, t'aurais pu rester à la maison pour voir un film, pour voir ce que tu veux. Tiens, t'es venu en cours de Torah, t'es un bon juif, ça va. Et là, il y en a de Morazaka qui te dit, non, ça c'est le piège du Yetzara. J'ai pas dit qu'on est des mauvais
Ah
juifs.
bon, ben, d'ailleurs, de dire que
D'accord?
si on fait pas la si on fait une mitzvah, on a un mauvais juif, hein.
Mais le piège du Yetzarara, c'est que le Yetzarara est là en train de te dire, tu as
D'accord,
fait une
d'accord.
mitzvah, tu es top, tu es super,
D'accord,
d'accord?
mais t'es pas
Et
mieux.
donc, ce qu'il faut comprendre, expliquer à Edmond Razaken, c'est que c'est à ce moment-là que le Yetzarara nous attaque. Dès qu'on commence à se sentir un peu trop parfait, c'est à ce moment-là que le Yetzarara nous attaque. Donc, c'est pour ça qu'on a expliqué toute l'histoire des nuages, qu'on a pu expliquer à la fin du Perek Zayin. On a expliqué qu'une personne doit comprendre que, d'abord, lorsqu'on fait des avérotes très graves, on forme un nuage qui est aussi grave qu'Avodah Zara. On a expliqué qu'il y a des avérotes qui nous paraissent, bonsoir, il y a des avérotes qui nous paraissent insignifiantes, mais que ces avérotes vont former un nuage aussi grand. Vous vous
Parfait,
rappelez?
parfait.
Nia.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Il y a des avérotes.
T'as le niveau. Tu peux venir à côté de moi, hein.
Il y a des avérotes qui nous ont l'air insignifiantes.
Conseille pas. Je te conseille
D'accord?
pas.
Parce qu'il.
Il est.
Il a mangé des oranges aujourd'hui, ça excite.
Il nous écoute.
Donc j'étais en train de dire que la Gemara Zaken, c'est quoi le numéro 2, le problème numéro 2, c'est qu'on se croit parfait. Donc là, c'est pour ça que la Gemara Zaken nous a rappelé, il a dit
Il a
attention,
cassé.
d'accord, il nous a cassé, nous a donné des claques. Il a dit d'abord, il faut savoir que d'abord on fait tous des avérotes très graves. Donc par rapport à ça, en forme de nuages énormes, aussi graves qu'Avodah Zara. Et même si on se dit qu'on ne fait pas d'avérotes très graves, L'association de plusieurs avérotes peut former un gros nuage, même si c'est des petites avérotes, entre guillemets. Ça, c'est numéro 2. Et numéro 3, le Moura Zaken a expliqué que il y a des avérotes qui nous paraissent insignifiantes, qui nous ont l'air insignifiantes, comme le Lachonara, comme ignorer la Tzedaka quelques instants, etc. D'accord? Ou bien comme mal regarder quelqu'un. Enfin, plusieurs exemples qu'on a donnés. Et que dans tous ces exemples qu'on a donnés, on a expliqué que c'est des exemples dans lesquels, pour nous, ça nous paraît une avérotte insignifiante, mais pourtant, la Gemara nous dit clairement que c'est comparé comme si qu'une personne a fait Avodah Zara, comparé comme si qu'une personne a fait Gilouya Rayot, d'accord, etc. Ça veut dire que c'est des avérotes très graves. Donc ça forme des nuages très graves. Donc en d'autres termes, on est très très loin du compte. Tout ça pour arriver à quoi? C'est là où je vais en arriver aujourd'hui. Tout ça pour... Il y a des litchis aussi, vous voulez. Des litchis. Alors, tout ça pour arriver où? Tout ça pour arriver au Pérekret. Pérekret, si je peux le résumer en un mot, Pérekret, le chapitre 8, on va parler de la notion de Rachamim, qui est la mida de qui?
Abraham.
Abraham.
De Yaakov.
Ah d'accord.
Non, les gens confondent Chesed et Rachamim.
Eh oui, voilà. Alors, on a oublié le cours la semaine dernière.
Je sais pas.
Quoi la différence entre bonsoir. C'est quoi la différence entre Chesed et Rachamim? Allez, on va rafraîchir la mémoire un petit
Alors,
peu.
Chesed, c'est la bonté.
Chesed, c'est la bonté, bonsoir. Rachamim, et Rachamim, c'est la miséricorde.
C'est-à-dire que il y a quelqu'un, par exemple, qui fait une faute, bien qu'il mérite d'être puni, eh ben quand même, je ne le punis pas. Ça, c'est Rachamim. Je passe par-dessus.
D'accord, mais c'est quoi la différence entre la bonté et la miséricorde?
La bonté, c'est faire le bien sans limite.
Oui, mais c'est quoi la différence dans les faits? Ça change quoi? Qu'est-ce que ça change si je suis bon ou miséricordieux? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie?
La miséricorde, ça tient du miracle.
Oui, mais dans la... je veux dire, imagine-toi que, voilà, juste que je dis « Monsieur David est bon », ou bien je dis « Monsieur David est miséricordieux », ça change quoi?
Ça change même si que même les fautes les plus graves,
qui
ne sont pas pardonnables.
Si tu fais une crasse, il va te pardonner.
Ça, s'il est bon aussi, il va pardonner.
Oui, mais même des fautes qui ne sont pas pardonnables.
Justement, c'est là où on arrive. On a commencé à expliquer ça la semaine dernière. C'est un point très très important à comprendre. Et vous allez voir pourquoi c'est important à comprendre, parce que sinon on ne comprend pas où la Gemara Zaken peut en arriver. On a expliqué la différence entre Chesed et Rachamim est la suivante. Chesed, c'est la bonté. Rachamim, c'est la miséricorde. C'est quoi la bonté? La bonté, c'est une personne qui ne voit que du bien partout.
Ah oui. Le Bachento,
d'accord, voilà. Ça veut dire, tout le monde lui fait des crasses, on le prend pour un pigeon, on se moque de lui, et lui il voit du bien partout, il dit, vous êtes gentil. D'accord, c'est un vrai pigeon. Et le pigeon, voilà, c'est Chesed, ça c'est Chesed. Ouais. Et je peux vous dire qu'Avraham Avinu, quand on lit dans le Midrashim, c'est l'image qu'on a d'Avraham Avinu. C'est-à-dire que les gens le prenaient pour un pigeon. Non mais il faut savoir. Aujourd'hui, dans le langage d'aujourd'hui, on aurait appelé ça un pigeon.
Et pas que lui, pratiquement tout.
Non. Les autres, c'est pas la même chose.
Ouais, même Yosef, tu comprends.
Il y a des
Yosef,
gens, tu comprends, c'est pas des pigeons.
Yosef,
mais ils décident de laisser passer, on verra, ça c'est la miséricorde. Ça c'est la miséricorde, c'est pas la bonté ça. La bonté, c'est quelqu'un qui est bon de nature. Vous savez, comme la mère juive, comme ça, bon de nature, comme ça au fond. Maintenant, tu te moques d'elle, elle a rien compris, elle a rien vu. Ça c'est...
Ça dépend qui se moque d'elle. Hein.
T'as raison, mon fils.
Par contre, tu te moques de son vrai, c'est pas...
Ah ouais, là, c'est pas vrai.
Ça c'est Chesed.
Même ça rien dit là, elle te dit.
Non mais ça c'est la bonne définition de Chesed. C'est la bonté. C'est-à-dire que je vois que du bien partout. Rahamim, c'est la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est-à-dire je vois le mal, mais je décide quand même de passer outre. Alors pourquoi c'est très important et pourquoi dans notre chapitre on va parler de Rahamim et pas de Chesed? Très important.
Parce qu'on a atteint la...
Parce que le problème, c'est que quand on fait appel toujours à la tribu de Chesed d'Akadosh Baruch Hu, on dit oui, Dieu il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. D'accord? Finalement, on oublie qu'on a quelque chose à se reprocher. Donc, en d'autres termes, on prend Dieu pour un pigeon. Ah oui. On prend Dieu pour un pigeon. Il y a dans la tête de beaucoup de gens, je dis bon, c'est pas grave, je fais d'Avirot, de toute façon, Dieu, j'ai un Dieu qui est gentil, il me pardonne, etc. Le problème, c'est que si tu prends Dieu pour un pigeon, tu feras jamais tes chouva. Peut-être que c'est aussi un pigeon, un Kadosh Baruch Hu, c'est sûr, qu'il nous donne beaucoup plus que ce qu'on devrait recevoir. Peut-être. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que une personne qui réfléchit comme ça ne fera jamais tes chouva. Nous, on est dans Igaret Teshuva. Donc, notre but, c'est de faire Teshuva. Donc, c'est quoi notre but? Notre but, c'est qu'on réalise que Akadosh Baruch Hu, c'est exactement les bêtises qu'on fait. Et qu'avec les bêtises qu'on a fait, normalement, on devrait être dehors du système. Et que quand même, on va faire appel à la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu pour supplier Akadosh Baruch Hu de nous laisser dans le système. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? C'est très simple. On a gagné avec ça qu'on n'est pas rentré dans un système de bonté dans lequel on prend Akadosh Baruch Hu Chas V'Shalom pour un pigeon. Pas du tout. On est en train dans un système de miséricorde, ça veut dire on va se mettre à pleurer à Kadosh Baruch Hu, à supplier à Kadosh Baruch Hu de nous accepter avec nos défauts. Enfin, je lui dis, t'as rien vu. Non, je dis à Kadosh Baruch Hu, tu connais mes défauts. T'as vu les grands défauts que j'ai, comment c'est grave ce que je fais? Et pourtant, Akadosh Baruch Hu accepte-moi tel que je suis. Ça, c'est Rachamim. Maintenant, on a expliqué, là je vais commencer dans les mots, Admor HaZaken a expliqué qu'une personne ne peut pas demander la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, on s'est arrêté sur ça la semaine dernière, on ne peut pas demander la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu tant qu'on n'a pas réalisé qu'on est
pas parfait
et qu'on est dans une situation problématique. Est-ce qu'on se rappelle ce qu'on a expliqué la semaine dernière? Je répète. On s'est arrêté sur ça. Allez, messieurs, on se remet dans le bain. On a expliqué la semaine dernière. On a expliqué la semaine dernière que tant qu'une personne ne réalise pas qu'il est dans le tort, il ne peut pas demander la miséricorde. On est d'accord? La semaine dernière, on avait appelé ça, vous rappelez, la grâce présidentielle. Voilà, ça vous dit quelque chose? Ça revient?
Non, oui, inquiétez pas.
Est-ce que ça vous revient, la grâce présidentielle?
Disons,
oui, qu'est-ce qu'on a dit sur la grâce présidentielle?
Je l'ai demandé toute la semaine.
Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas encore mis en ligne, le cours. Alors,
non, mais...
alors, c'est quoi la grâce présidentielle? Ah, t'as demandé, oui. À quel moment intervient la grâce présidentielle?
Je n'ai pas demandé verbalement.
La grâce présidentielle, à quel moment elle intervient? Vas-y, Raphaël, dis-nous.
Quand on sait qu'il
n'y a plus rien à faire. Mais si directement, dès le départ, le gars a dit, bon, grâce présidentielle, qu'est-ce qu'on va lui dire? Non, ça ne marche pas comme ça. Au contraire, on va lui dire, tu te moques de nous. Tu te moques du président. Tu te moques du système en faisant ça. Ça veut dire qu'une personne qui est là en train de demander Rachami, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, sans réaliser pourquoi il a demandé la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, quelque part, non seulement qu'il prend Akadosh Baruch Hu pour un pigeon, c'est comme si qu'il est en train de se moquer d'Akadosh Baruch Hu.
C'est
ce que ça veut dire. C'est-à-dire quoi, tu demandes la miséricorde? T'as réalisé d'abord que c'est grave ce que tu as fait et que t'es très très loin? Est-ce que t'as réalisé ça avant de demander? D'accord? On n'a pas réalisé. Alors, c'est pas une question de pardon. Demande pardon de quoi? De qui? D'où?
Et si on n'a pas compris l'enjeu déjà au départ, comment tu veux comprendre?
T'as raison. C'est là le problème qu'explique Admor HaZaken, c'est que des fois on comprend l'enjeu, mais ça change pas qu'on continue à fauter. Pourquoi?
Parce que c'est pas
le problème. On revient au deuxième problème, c'est l'ego.
C'est l'ego.
C'est que je me sens parfait et même si j'ai fait une avéra, je dis bon ça va, c'est pas si grave que ça. Et donc je ne sens pas que c'est un problème. Je sens pas que c'est un problème. Je dis c'est pas grave, Dieu continuera à s'occuper de moi comme d'habitude. Je sens pas que c'est un problème. C'est pour ça que l'Admor HaZaken, à la fin du chapitre 7, nous a donné beaucoup de claques. Il a pris des exemples concrets, t'as dit, t'es complètement à côté de la plaque, tu crois que t'es religieux, t'es très très loin. Alors pourquoi il me dit ça? Il me dit ça pour que je réalise que je suis loin, et pour que je réalise que je dois demander la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Pas que je suis en train de faire des tovot à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, les gens, hein, c'est l'Admor HaZaken va dire après, il y a des gens qui pensent qu'ils sont en train constamment de faire du bien à Dieu. Ils disent, ouais, moi je suis gentil avec Dieu, je fais des mitzvot, etc. C'est déjà très gentil de ma part. Il faut renverser la situation. C'est pas moi qui est gentil avec lui, c'est lui qui est gentil avec moi.
Mais puisque notre teshuvah n'est pas parfaite, ça sert à quoi de demander la grâce aux ancêtres? Puisque finalement les fautes on va les refaire.
Puisque, excuse-moi.
Notre teshuvah n'est pas parfaite. On a dit qu'on recommence les fautes. On comprend pas l'enjeu.
Oui.
Alors à quoi c'est ça qu'on va demander la grâce?
Parce que ça, c'est
la miséricorde. Si justement on va
c'est qu'on ne peut pas demander la miséricorde tant qu'on n'a pas réalisé qu'on est dans un problème.
Oui, mais même
si et qu'on est embêté. Regarde, c'est quoi l'exemple numéro 1? Yom Kippour. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner. Mais Yom Kippour, ça vient pas tout seul. Avant Yom Kippour, qu'est-ce qu'il y avait?
Les Slichot.
Il y avait les Slichot.
D'accord.
Bon, il y en a qui comprennent plus rapidement.
Voilà, c'est ça.
Alors.
Mais on a dit dans les cours précédents, quoi qu'il arrive, on va recommencer. C'est faux, c'est la même faute.
Oui! Tu as raison.
On va recommander, on va redemander.
Non,
à chaque
pas du tout. On recommencera pas les mêmes gaffes.
Finalement, donc.
Pas du tout.
De demander d'aller,
Si on recommence les mêmes gaffes, c'est qu'on n'a rien compris. C'est quoi la mémoire? À quoi nous sert la mémoire? La mémoire nous sert à pas refaire les mêmes gaffes, sinon on tourne en rond. Et Sarah, t'inquiète pas, il nous attaquera sur d'autres choses. Mais la mémoire, justement, nous sert à ne pas retomber dans les mêmes pièges. Comment? Voilà la réponse. La réponse est ici. La réponse, c'est que quand je demande Rachamim, je demande pas Chesed à Kadosh Baruch Hu, mais je demande Rachamim. Je demande la miséricorde. Ça n'a rien à voir. La miséricorde, on la demande à Kadosh Baruch Hu lorsqu'on a réalisé que c'est la seule issue et que je suis très très loin du compte et que vraiment j'ai besoin que Kadosh Baruch Hu me vienne en aide. Là, Kadosh Baruch Hu vient en aide. Et s'il vient pas en aide à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire que j'ai pas encore réalisé qu'il y a un problème et que c'est pas normal ce qui se passe. Et que bon, j'ai la routine, tout qui tourne. Alors maintenant, on s'est arrêté ici la semaine dernière. On a expliqué que c'est ça, le concept des Yud Gimel Midot Arachamim. C'est 13 attributs de la miséricorde. Vous vous rappelez, on s'est arrêté sur ça la semaine dernière. Dans les 13 attributs de la miséricorde, qu'est-ce qu'on dit? On dit Hachem, Hachem, Kel Rachum, Vechanun. Très bien. Alors, on va recommencer.
Je ne moque pas.
Velachem. Allez, messieurs, on y va. Alors, on va prendre la 8e ligne du Pérekret. C'est au milieu de la page. Velachem.
C'est la raison pour laquelle.
Velachem, c'est pour ça. Du à Yudgim, El Midata Rachamim, c'est pour ça que les 13 attributs de la miséricorde, Menakim, Kol Abgamim. C'est pour ça que les 13 attributs de la miséricorde, ils vont nettoyer Kol Abgamim, tous les défauts. En d'autres termes, ça veut dire quoi tous les défauts? Ça veut dire même les défauts que normalement un sacrifice n'aurait pas pu pardonner. Par exemple, une avéra qu'on a fait intentionnellement. Ce qui malheureusement est le cas de la majorité de nos avérot. Je fais intentionnellement, c'est très bien que ça sourd. Tu le fais quand même. Donc normalement, à l'époque du Batamikdash, aucun sacrifice n'aurait pu pardonner ça. Et qu'est-ce qu'on te dit? Qui c'est qui peut pardonner ça? C'est uniquement les attributs de la miséricorde. D'où on sait? Moi, je sais que comme c'est écrit, Nose Avon Vafesha Venake. D'accord? C'est écrit Vachata aussi. Donc c'est quoi? Donc, on a expliqué, c'est quoi Avon? Avon, c'est les Averot qu'on fait. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Avon, c'est les Averot qu'on fait. Alors, on a trois catégories d'Averot. D'accord? On va commencer de l'autre côté. On va commencer par Chata'a. C'est quoi Chata'a? Khatat, c'est une faute qu'on fait
non intentionnellement,
sans faire exprès. Par exemple, je savais pas que c'était interdit. Ou j'ai pas fait exprès. J'ai allumé la lumière sans faire exprès. Ou bien, je savais pas que c'était sûr d'allumer la lumière Shabbat. Ça, c'est sans faire exprès. Ensuite, on a Pécha. C'est quoi Pécha? Pécha, ça veut dire, c'est un peu, voilà, ce qu'on dit aujourd'hui un pécheur. J'ai fauté, mais je l'ai pas fait vraiment pour embêter à Kadosh Baruch Hu. Bon, j'ai pas fait pour me révolter. Je l'ai fait parce que j'ai craqué. C'était plus fort que moi. Okay. Et là, après, on a Avon. Avon, c'est le pire. Avon, c'est, je l'ai fait, je savais très bien que c'était interdit, je comprenais la gravité, je l'ai quand même fait. Et qu'est-ce qu'on dit dans le Vayavor, dans ces fameux 13 attributs de la miséricorde? On dit que Kadosh Baruch Hu, il est capable de supporter Avon, Vafesha, Vachata'a, Venake. Venake, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, il nettoie. Tout ça, il est capable de supporter. Tout ça, il est capable d'effacer. Qui c'est qui peut faire ça? C'est uniquement les 13 attributs de la miséricorde. C'est uniquement cela. Uniquement les 13 attributs de la miséricorde, c'est eux qui peuvent réparer. Mais attention! À quel moment interviennent les 13 attributs de la miséricorde? C'est une fois qu'une personne a réalisé qu'il est dans le problème. Là, ça marche. C'est le concept même des tfilotes. Pourquoi on fait des tfilotes? Pourquoi on fait des tfilotes? Alors, à Kadosh Baruch Hu, il sait très bien qu'on est dans la détresse. Je veux dire, c'est un parent qui connaît très bien ses enfants, il sait très bien qu'on souffre. Pourquoi il attend notre tfila? Admor HaZaken explique dans Torah Or, il dit pourquoi il attend notre tfila? C'est très simple. C'est que Kadosh Baruch Hu attend qu'on réalise. C'est tout. Il attend qu'on réalise qu'on est dans le besoin. Et qu'on réalise qu'il n'y a que lui qui peut nous aider. C'est tout. Des fois on réalise vite, des fois on réalise pas. Ça prend du temps. Des fois c'est les tzadikim qui font le boulot à notre place. Ça aussi c'est possible. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu il attend notre tfila? Parce qu'il attend qu'on réalise. Des fois avec le temps on oublie. Donc Dieu dit bon, je veux vous rappeler que vous devez réaliser ce qui se passe. Ça c'est Rachamim. Donc quand on va réaliser ce qui se passe et qu'on va se tourner vers la Rachamim d'Amid Kadosh Baruch Hu, on va dire écoute Kadosh Baruch Hu, on n'est pas méritant, mais quand même, donne-nous. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Là, c'est là qu'on a les 13 attributs de la miséricorde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les invoquer comme ça. D'ailleurs, quand on voit dans l'histoire, les 13 attributs de la miséricorde ont été utilisés la première fois par qui? Par Moshe Rabbeinu. Mais comment ça s'est passé dans l'histoire? Comment Moshe Rabbeinu a demandé? Après la faute du Vaudan. Mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On va reprendre l'histoire. Kadosh Baruch Hu a donné la Torah à Bnei Israël, c'était le 6 Sivan. Moshe Rabbeinu est parti et monté au ciel pour récupérer les Louchot. Ça a pris 40 jours. 40 jours plus tard, il descend avec les premières louchot, et Moshe Rabbeinu découvre, comme on leur dit aujourd'hui, le poteau rose, découvre que les Bnei Israël sont en train de fauter, le vaudor, etc. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu avec les louchot qu'il a dans la main? Il les laisse se casser, ou bien même il les casse. D'accord? Donc elles se cassent. Ok. Donc là, il comprend qu'il y a un problème. C'est quoi le problème qu'il comprend? Il comprend qu'il y a un problème parce que Kadosh Baruch Hu, il sait pas comment Kadosh Baruch Hu va réagir. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là, Moshe Rabbeinu?
Je vais détruire,
d'accord?
Elles sont pas incassables, les louchot.
C'est-à-dire?
Une blague.
Ah. Alors, à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Donc, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Il lui dit, laisse-moi, je te fais un nouveau peuple. Arrête avec ce peuple-là, ils sont prises de tête, ils sont galères. Je te fais un nouveau peuple, tranquille, tu te prends pas la tête. Imaginez-vous, un Rosh Yeshiva. Arrête de te prendre la tête avec ces élèves-là, on va te donner de nouveaux élèves, une nouvelle Yeshiva, des propres.
C'est la chaou.
Ben oui, c'est comme ça qu'on voit les choses. Qu'est-ce qu'il répond Moshe Rabbeinu?
Si une chaise à trois pieds ne marche pas.
Alors non, mais il a répondu. Il a dit. La phrase clé de Moshe Rabbeinu, qui est écrite dans la Torah, après on a le Midrashim autour. Il lui dit, si tu les effaces à eux, efface-moi aussi. Ça veut dire, si tu les effaces à eux, il n'y a plus d'Yeshiva. Il n'y a plus rien. D'accord? Bon. Mais ça s'est pas passé comme ça. Il y a eu des négociations avec Moshe Rabbeinu. Il y a eu des négociations entre Kadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu pendant 40 jours. Le Midrash nous raconte. D'accord? Donc, notamment, il y avait l'argument de Guy qui dit, les trois pieds, oui, j'ai compris. Ça s'est pas passé comme ça, c'est pas juste en une minute ce qui s'est passé. Il y a eu 40 jours de négociation entre Kadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu.
Et c'est ça qui est fort. Où il a trouvé tous ces arguments, Moshe?
Bah, il est dans sa tête, il les a trouvés.
C'est ça qui est...
D'accord.
Bah,
je vois beaucoup qu'il a inspiré ses
arguments. Peut-être. En tout cas, quoi qu'il en soit, Moshe Rabbeinu a argumenté. Bon. Et à la fin, le 40e jour, d'accord, le 40e jour, lorsque Moshe Rabbeinu a annoncé, lorsque Moshe Rabbeinu est revenu pour annoncer le pardon de la faute du Vaudor, d'accord, alors c'est même pas le pardon pour la faute du Vaudor, il a annoncé qu'Akadosh Baruch Hu est prêt à ne pas les détruire. Ça c'est 40 jours plus tard, c'est Rosh Chodesh Elul. C'est pas le pardon. Il dit que bon, Dieu a dit que, ok, pour l'instant on fait rien, on tempère. Mais il a toujours pas pardonné, la preuve c'est qu'il a pas encore donné le second Luchot. C'est seulement encore 40 jours plus tard, on est à 120 jours depuis, d'accord, qu'on sera le 10 Tishri qui est le jour du Yom Kippour, c'est là qu'on a les 13 attributs de la miséricorde dans lesquels Akadosh Baruch Hu dit, je pardonne. Qu'est-ce qu'on est en train de voir dans cette histoire? On voit que, quand Akadosh Baruch Hu, va yavor Hashem alpanav, va yikra Hashem, Hashem, kel rachum vechanun, etc. Donc tout ce fameux va yavor qu'on va dire ici. C'est pas venu comme ça. Il y a eu 80 jours, quand on prend le calcul, il y a eu 80 jours de négociation de Moshe Rabbeinu. Avec ça, on connaît très peu de ce qui s'est passé. On sait que ce que le Midrash a pu nous raconter. Imaginez-vous 80 jours dans lesquels on dit que Moshe Rabbeinu, il était monté chez Akadosh Baruch Hu. Il se passait des choses extraordinaires. Et c'est seulement au bout de 80 jours de négociation qu'on arrive à l'argument ultime de « Vaya avoir Hashem, Hashem, Alpana, Vaya Krap ». Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier dans ce Vaya avoir? On dit que Dieu est miséricordieux. Qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire? Laisse on expliquer, on comprend. C'est qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il savait très bien qu'Akadosh Baruch Hu était miséricordieux. On n'a pas besoin d'attendre 80 jours pour avoir cette réponse-là. Pourquoi il a besoin d'attendre 80 jours? Parce que pendant ces 80 jours, Akadosh Baruch Hu attendait de Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu réalise que selon les lois de la nature, selon les lois de la logique, il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. Et c'est ce qu'on voit dans les Midrashim. Qu'à chaque argument que Moshe Rabbeinu sortait, Akadosh Baruch Hu lui répondait. Qu'est-ce qu'il répondait à Akadosh Baruch Hu à chaque fois? Akadosh Baruch Hu répondait non, t'as dit ça, mais ça marche pas, t'as dit ça, mais ça marche pas. Akadosh Baruch Hu répondait à tout. Il a voulu amener Moshe Rabbeinu, comme on dit, devant le pied du mur. Il dit voilà, il n'y a rien. Devant le pied du mur, il n'y a rien, il n'y a pas où aller. Il n'y a rien.
Justement là où
d'accord. Et c'est là, c'est à ce moment-là, quand on réalise qu'on est au pied du mur, c'est là que la Rahami va intervenir.
Ah, c'est pour ça qu'il nous
d'accord. Sinon, on est dans Chesed.
C'est pour ça qu'il nous aura les épreuves, alors.
Ça veut dire comme ça. Ça veut dire...
Comment il a déjà demandé...
Hein non, attends, je veux qu'on comprenne bien ce que je suis en train d'expliquer, puisqu'on est, là, on est en plein dans les parachas qui parlent. D'accord. On est parachat Béchalar, on vient de sortir d'Égypte parachat Beau, et la semaine prochaine, parachat Tron, on va recevoir la Torah. Je veux qu'on comprenne bien la différence entre le don de la Torah, d'accord, entre le jour du Yom Kippour, et entre Pessah en général. Quand on est sorti d'Égypte, on n'était pas forcément méritant. Et on réalisait pas forcément qu'on avait besoin de sortir d'Égypte. On savait, on avait une Emouna, on devait sortir, on le savait, mais on réalisait pas, on comprenait pas qu'on était au pied du mur et que c'était très grave ce qui était en train de se passer.
Ils ont réalisé.
Donc c'est écrit, c'est pour ça qu'on lui dit que Pessah, c'est du mot Passar. Passar, ça veut dire sauter. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu a été obligé de nous prendre de manière miraculeuse sans qu'on réalise ce qui se passe. Les Bnei Israël n'ont même pas eu le temps de réaliser ce qui se passe. C'est seulement dans le désert qu'ils ont réalisé ce qui se passe.
C'est chesed.
D'accord. Ça c'est chesed, c'est du pur chesed. Exactement.
Pourquoi ils ont envoyé en Égypte alors? Excuse-moi.
Pourquoi?
Ils ont paralysé. Pourquoi ils ont envoyé en Égypte?
Non, alors, il y avait d'autres raisons, il y avait des étincelles à récupérer, on a expliqué au cours de Shabbat après-midi. Alors, il y avait des étincelles à récupérer, ça c'est un autre cours, la question n'est pas là. La question est que la méthode, lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, c'était pas du tout de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Nous on croit que c'est de la miséricorde, les Israël ont dit on n'en peut plus, on a craqué, ça c'est rien ça. C'est rien du tout, ça c'est du chesed. Le Midrash dit clairement, il dit que Akadosh Baruch Hu il a dit bon, je vous prends, je vous propulse, vous comprendrez après. C'est ce qui s'est passé. C'est quoi le Homer qu'on fait? Tous les sphirotes qu'on fait dans le Homer. Parce qu'après, ils ont eu besoin de 49 jours, c'est déjà extraordinaire, en un mois et demi, c'est rien. Pour réaliser ce qui s'est passé. D'accord? Sauf que le problème, pourquoi ça n'a pas tenu? C'est très simple pourquoi ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu parce que c'était du chesed. Chesed, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu, mais sans que la personne réalise vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que les Bnei Israël ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour être prêts pour Matan Torah. Certainement qu'ils étaient prêts pour Matan Torah. Mais ils étaient propulsés.
49.
Ils étaient propulsés. Ils n'ont jamais eu le sentiment qu'ils étaient au pied du mur. Par exemple, on se connaît bien le Midrash qui nous dit que les Bnei Israël, avant de sortir d'Égypte, ils étaient à la 40e porte d'impureté, et c'est pour ça qu'ils étaient obligés de sortir tout de suite. Pourquoi? Parce que sinon, ils auraient atteint la 50e porte, et là, une chasse est finie, c'est trop tard. D'accord? Ça, c'est Dieu qui nous le dit, c'est le Midrash qui nous le dit, c'est Moshe Rabbeinu qui nous le dit. Mais les Bnei Israël, est-ce qu'ils ressentaient ça? Pas du tout. Bon, on a réussi à les secouer. Bon, tu les secoues, tu secoues un prisonnier, il va sortir avec toi. Mais ils n'ont pas compris l'enjeu, parce que c'est chesed. C'est seulement le jour de Yom Kippour, que les Bnei Israël vont comprendre, et Moshe Rabbeinu, donc les Bnei Israël vont comprendre qu'ils sont devant le pied du mur. Et là, lorsqu'on comprend qu'on est devant le pied du mur, c'est là que Kadosh Baruch Hu dit, ah, vous êtes devant le pied du mur, Maintenant, je vous donne Rachamim. Maintenant, je vous donne la miséricorde. Ça, c'est le plus haut niveau qui puisse exister. C'est pour ça que la fête la plus forte de l'année, c'est pas Pessah, c'est pas Shavuot, c'est Yom Kippour. Parce que c'est l'événement le plus fort de l'année, c'est le plus fort que tout, ça. Quand une personne comprend qu'il est dans le pied du mur, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu lui donne tout. C'est la meilleure chose qui peut arriver à l'homme lorsqu'il comprend qu'il est au pied du mur. Donc, en d'autres termes, regardez où je vais en arriver. Ça veut dire que dans la chassidoute, on va t'expliquer que même si à certains moments, on doit prendre des claques, comme on a fait à la fin du Perek Zayin, le but n'est pas de prendre la claque pour te dire que t'es un naze. Bon, je suis un naze, ça va, je fais quoi maintenant? Non, le but n'est pas de prendre la claque. Le but est de me montrer que je suis au pied du mur et que, étant donné que je suis au pied du mur, ma neshama va appeler ma neshama va rechercher quelque chose de très profond qui s'appelle la rachamim, la miséricorde, et là, on va aller très loin. C'est pour ça c'est le processus qu'explique le Mourazaken. Dilat Mourat, donc ça, et c'est pour ça que les Yud Gimel Midat Rachamim, les 13 attributs de la miséricorde, peuvent pardonner même une avéra que les sacrifices, que les méthodes conventionnelles auraient pu pardonner. Les méthodes conventionnelles ne peuvent pas pardonner quelque chose comme une avéra qu'on fait bezadon, une avéra qu'on fait en faisant exprès. Par exemple, les sacrifices. Sacrifice, ça représente quoi? Sacrifice, ça représente le feu qui descend du ciel. Le feu qui descend du ciel, ça représente quoi? Allez, messieurs. Après, on fait dans les mots. Chesed. D'accord? Le feu qui descend du ciel, c'est quoi? C'est Chesed, c'est la bonté. La bonté d'Akadosh Baruch Hu. On te dit que la bonté qui descend d'Akadosh Baruch Hu, elle a ses limites. C'est pour ça que quelqu'un qui fait une avéra en faisant exprès, la bonté d'Akadosh Baruch Hu ne peut rien pour lui. Elle peut pas l'aider. Désolé pour ça, je peux rien te faire. C'est pour ça que le sacrifice, c'est le feu qui descend du ciel. Je peux pas t'aider. Désolé. Qui sait qui pourra l'aider? C'est uniquement la grâce présidentielle, c'est uniquement lorsqu'il réalise qu'il est au pied du mur. Là, il pourra atteindre un niveau qui est plus fort que tout. Alors, Veshuv,
je prends un... Est-ce que c'est le jour qui pardonne en lui-même, ou est-ce que c'est le fait de faire Teshuva qui pardonne pour Yom Kippour?
Ah, c'est pas ça la question. La question c'est, est-ce que le jour tout seul pardonne, voilà. Ou bien est-ce que c'est le jour, d'accord, associé à la Teshuva?
Voilà, c'est ça.
C'est la même question.
Oui, d'accord, mais ça veut dire que peut-être qu'il ne réalise pas, là. Si c'est uniquement le jour qui pardonne, toi tu ne réalises pas.
Tu as raison. Ça veut dire que quand on dit que le rabbi explique que quand on dit que c'est le jour qui pardonne, ça veut dire que la neshama elle ressent des choses à ce moment-là.
Voilà.
Et que même si ça s'exprime pas dans le corps, mais la neshama elle ressent des choses à ce moment-là. C'est rabbi qui dit ça, rabbi donne aussi. Péchou, vous avez dans les mots? Allez, c'est bon, on revient dans les mots. Moi, bon, je me suis attardé un peu à l'oral, mais parce que après on pourra avancer plus vite dans les mots. Péchou, est-ce qu'il y a des questions d'abord? Est-ce que tout est clair jusqu'ici?
Bon, non, mais quand même, quand on n'est pas complètement abruti, on réalise bien que tout dépend de la cause d'Hashbaro, on est toujours au pied du mur tous les jours. C'est pas pour ça qu'on n'a pas des preuves, que ça va bien et que... Tu comprends?
T'as dit que tu restes toujours au
pied
du mur.
Non, je suis pas sadique. Tout le monde le sait. D'accord? Non. On réalise tous que si on respire, c'est grâce à Hachem. Si on va travailler, c'est grâce à Hachem. Si on va la tuer, c'est grâce à Hachem. Si on reste qu'on a la tuer, c'est pas grâce, c'est grâce à Hachem. C'est vrai, on l'a compris.
C'est ce que j'ai expliqué au début. J'ai dit que on le sait, mais on ne le perçoit pas.
Oui, mais ça, c'est parce que c'est Hachem qui a voulu.
D'accord,
ça.
Non, deux secondes. Donc, c'est ça le problème.
C'est
le problème. Ça, c'est le problème numéro 1 qu'on a expliqué. Ça va, David?
On est dans la vente de la mer. Je dis quand même.
Oui, j'ai compris. Mais le problème numéro 1, c'est qu'on ne perçoit pas. Comme on perçoit, ça veut dire, on sait. On comprend. Logiquement, on comprend, mais on ne perçoit pas. Donc, comme on perçoit pas, on se sent pas comme une personne au pied du mur. Tu comprends? Je sens pas que j'ai un pistolet sur moi et que normalement, je devrais mourir. Que là, je serais en sueur, si ce serait le cas. Je suis pas en sueur. Je vais dormir tranquillement, je dors, je m'endors, il n'y a pas de problème. Une personne qui a un souci comme ça, normalement, ne devrait pas s'endormir. Pour ça, on dit, les tzadikim, ils ont du mal à s'endormir. Vous savez ça, les tzadikim, ils ont du mal à s'endormir. Les soucis du Ham Israël les dérangent. C'est vrai, hein. Les tzadikim, ils ont beaucoup de mal à dormir. Et même la nuit, ils sont pas tranquilles. Ils sont pas tranquilles comme nous, quand c'est un gros problème qui nous dérange. Ça, oui, là, tu peux dire qu'ils sont que le pied du mur.
Donc, alors, faudrait qu'on soit ça, le but?
Voilà, c'est comme l'angoisse qu'on a le soir du Yom Kippour. Tu sais, tu vas dormir le soir du Yom Kippour, on a de l'angoisse.
Non, t'as pas d'angoisse, puisque tu comprends pas dans le jeu et que tu ressens
ça
pas...
Ça vous arrive pas, c'est l'angoisse le soir du Yom Kippour? Tu vas dormir du...
Non, parce qu'on ressent pas la chose, peut-être comme on devrait la ressentir.
C'est pas une angoisse c'est négative, mais bon.
Bon, on n'est pas parfait, entre guillemets.
Non, le 9A, bon, bah, c'est plus Yom Kippour. En tout cas, Veshuv.
Si on ressent pas...
Veshuv en yenika lachitsonim vasitra achara mashpat etata kanal. Dis l'admurazaken. Lorsqu'on a réussi à invoquer la mida de Rachamim, la mida de la miséricorde, non seulement ce qu'on va gagner, c'est qu'on va obtenir le pardon d'Akadosh Baruch Hu, c'est numéro 1. Mais à part ça, ce qui va se passer, c'est que les forces du mal n'auront plus à atteindre sur moi. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué dans l'écouté à Marim, dans la première partie du Tanya, on a expliqué que malheureusement ce qui peut se passer, c'est que lorsqu'une personne commet d'avérotes une après l'autre, après on rentre dans une spirale qu'on peut plus en sortir. Parce qu'après, même s'il veut s'en sortir, il peut pas. Parce que l'envie de l'avéra est plus forte que lui. Ça on l'a expliqué, c'est pour ça que quand on dit qu'une personne qui fait d'avérotes de manière intentionnelle, Dieu ne le laisse pas faire teshuva, c'est vrai qu'il ne laisse pas faire teshuva, ça veut dire qu'il aura toujours envie de l'avéra. Et que l'envie de faire l'avéra sera toujours plus forte que l'envie de s'arrêter.
On avait dit que le libre arbitre c'était avant qu'il ne rentre dans la spirale. Et que dès qu'il est entré, c'était.
Il a toujours le libre arbitre. Il a toujours. Si, on a expliqué. Ouais, mais il a toujours le libre arbitre. Donc ça, il a toujours le libre arbitre, même après. Mais c'est très dur.
On avait pris le cas du jeune qui était parti avec une femme, une jeune Bakour qui avait été pris dans une chambre avec une femme de petite vertu, tu te souviens? Et qui avait sauté par la fenêtre et qu'il avait eu.
Non, moi je. C'est pas chez moi, non.
C'est notre course. Quelqu'un d'autre, je sais pas.
Peut-être, non, je vois au lit.
Il y a peut-être même de la suite. Tu es dedans?
C'est possible. Enfin, j'ai fait un compte.
T'as combien d'amis?
Hein?
Non, je me suis posé la question, franchement, hein, j'ai eu de la peine quand je t'ai vu.
Tu l'as vu, tu l'as pas vu.
Parce que sur sa page, il y a des publicités pour la lingerie féminine, etc. Je sais pas possible.
C'est pas moi.
Toi,
c'est pas moi.
Je t'ai dit.
C'est pas moi là.
Et il y avait Rémi Massouline, et après il y avait Sol. C'est quoi ce truc là, Sol là. Alors je me disais, c'est même Rémi Massouline qui a les mêmes noms, les mêmes prénoms, tu vois.
Ah non, c'est pas moi. Avec les pubs que tu avais en plus, ça peut pas être moi.
J'ai l'envoi, j'ai
pas. C'est lui qui décide de la pub de son
site. Mais normalement.
Bon, quoi qu'il en soit. Non, je sais qu'il y a un Mendel à Souline, qui habite à Marseille, qui est pas religieux du tout apparemment, c'est un champion en natation, quelque chose comme ça.
Ça peine du tout.
Je fais une fois un compte pour les amis, mais je crois pas que, bon, enfin, il doit être désactivé à mon avis.
Ne te laisse pas déconcentrer.
Allez, on y va.
Mange une banane, il y a encore fait quelque chose.
Donc, ou basé, tachouv, hé, tata'a, limkomav, leikyached, veyud, kevav, vedal. D'accord. Donc, nous dit Edmond Razaken. Dis Edmond Razaken la chose suivante. Allez, on verra après.
On va confisquer les portables, non, c'est pas possible.
Allez, messieurs, on range les portables. Donc, nous dit Edmond Razaken que, normalement, qu'est-ce qui se passe? Normalement, une fois qu'on est rentré dans la spirale du mal, le mal ne nous lâche plus. C'est fini. Il te lâche plus, il est plus fort que toi. C'est quoi la force de Rachamim, la force de la miséricorde? C'est encore plus fort que Chesed.
De sortir de ceci.
D'accord. C'est quoi Chesed? Chesed, c'est quand une personne a envie de faire teshuva. Bon, pardon, il a envie de faire teshuva. Il va peut-être faire teshuva. Mais ça ne veut pas dire qu'on lui a enlevé l'envie du mal. Il aura toujours l'envie du mal. Ça ne le lâchera pas. Mais ça reviendra. C'est quelque chose qui reviendra. C'est quoi Rachamim? Rachamim, c'est la miséricorde, c'est quelque chose qui est encore plus fort que Chesed. C'est quelque chose qui va carrément enlever l'envie du mal. Que le mal n'aura plus atteinte sur cette personne-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura plus des pensées déplacées. On n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire qu'il sera plus pris dans la spirale du mal comme avant. Il sera beaucoup plus maître de soi-même. Ça arrive quand? Ça arrive lorsque la personne a réalisé qu'il est au pied du mal.
Donc il a fait teshuva.
Mais c'est pas simplement teshuva.
Mais oui, c'est autre chose que teshuva là.
C'est plus fort, c'est la teshuva d'Yom Kippour.
C'est réalisé.
D'accord. Alors, continue la Edmond Razaken. Vechen, mamash lemata benefesh elokit sheba adam. Ah, là on va arriver. Là on va arriver à la question que David avait posée. David avait posé une question il y a un mois et demi.
Oula.
Il avait dit que...
Deux mois,
il a dit tout ça c'est spirituel. D'accord? C'est spirituel. On nous dit, oui, lorsque tu fais une avéra, voilà ce qui se passe en haut, le yud, le hé, le vav, etc. Bon, ça, c'est très beau tout ça. Mais dans les faits, est-ce que moi je ressens quelque chose dans ma vie de tous les jours? Alors, la réponse qu'on avait donnée, c'est oui. On ressent quelque chose dans la vie de tous les jours. Comment on ressent? On ressent un blocage. D'accord? On ressent un blocage, c'est-à-dire que la personne sent qu'il essaye d'avancer, mais il sent que ça ne lui parle pas, ça ne l'intéresse pas. Ça ne lui dit rien du tout, il n'en a rien à faire. Je n'ai rien à faire, ça ne dit rien du tout. Nous dit l'Admor Hazaken, lorsqu'on dit qu'une personne, lorsqu'il va réussir à demander Rachamim à Kadosh Baruch Hu, à demander la miséricorde à Kadosh Baruch Hu, ça va enlever le blocage. C'est pas simplement un blocage qu'on va enlever en haut. C'est aussi le cas. On va enlever un blocage en haut. C'est ce qui se passe à Yom Kippour. À Yom Kippour, dans le Tfilot, on parle des blocages qui s'enlèvent en haut. Mais tu dis, ne va pas chercher en haut. Il n'y a pas que en haut que le blocage va s'enlever. Vechen mamash le mata. Même en bas, mamash. Mamash, c'est-à-dire vraiment en bas, chez moi. Venefesh le kitcheva Adam, dans l'âme divine de l'homme, shuven avolotecha mavdilim. Lorsqu'une personne arrive à faire rachamim, la miséricorde, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'un coup, il va supprimer tous les nuages. Est-ce qu'on a quelque chose qui est plus fort que les nuages? J'essaie de trouver un exemple.
Oui.
Qu'est-ce qui est plus fort qu'un nuage?
La voûte d'acier, là, la voûte.
Le ciel d'airain. Barzel.
Non, mais c'est physique, c'est quelque chose de.
C'est dans l'observe.
Oui, d'accord, mais je mets Barzel. Non, mais je parle, moi, dans physique, ce qu'on peut voir.
Ah, tu veux dire en
physique? Oui, la lune, quand elle traverse le soleil. L'éclipse du soleil. Tu sais, quand la lune, elle se met devant.
Non, ce que je veux dire,
c'est. Là, tu vois plus du tout la lune.
Là, on parle de Rachamim. Rachamim, c'est quelque chose qui vient. Que dès que tu as ce dévoilement qui vient, et que je supprime les nuages, il n'y a plus de nuages. Encore une fois. La différence entre Chesed et Rachamim est la suivante. Chesed, il fait comme si il n'y a pas de nuages, mais il y a des nuages. Donc il va t'envoyer de la lumière, mais bon, ça va avoir un effet, mais ça partira à l'effet. Ça, c'est un peu la teshuva qu'on fait tous les jours. Voilà, je fais la shacharit le matin, j'ai envie de bien faire, mais bon, dans les faits, après, le lendemain, je referai shacharit et je redemanderai la même chose. Pourquoi? Parce que c'est Chesed. J'ai pas réalisé que je suis au pied du mur. J'ai pas réalisé que je suis au pied du mur, donc ça n'a pas d'effet vraiment durable. C'est quoi Rachamim? Rachamim explique ici avec Morazaken, c'est lorsque la personne a réalisé qu'il est au pied du mur, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, en haut, il y a un obstacle qui va s'enlever. La personne n'est plus prise dans la spirale du mal. Mais c'est pas seulement en haut, c'est même en bas. En bas, non, jusqu'à présent, il y avait Avonotechem Mavdilim. Il y avait Noaverot qui nous sépare, qui se sépare entre nous et Akadosh Baruch. C'est quoi Noaverot? On a expliqué sous la forme de
nuage.
Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne arrive à Rachamim? Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il a supprimé tous les nuages. Et d'ailleurs, c'est une image qu'on retrouve dans les Tfilot de Yom Kippour, dans laquelle Akadosh Baruch Hu dit, si vous aviez des Averot, si vous aviez des Averot, bonsoir.
T'as fait de l'effet, Yves.
Un des versets qu'on rappelle dans la Tfilot de Yom Kippour, c'est Imiyu Chatayechem Kashanim Kasheleg Yalbinu.
Faut plus les mettre à côté.
D'accord. Si vos Averot, Imiyu Chatayechem Kashanim, si vous aurez des Averot rouges, d'accord, rouges écarlates, ça veut dire rouge grave, quoi. Le gars, il fait beaucoup d'Averot. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Kasheleg Yalbinu. Ne vous inquiétez pas, vos Averot vont blanchir comme de la neige. Comment c'est possible? Comment ça peut se passer? Comment tu peux dire qu'une personne, qu'est-ce qui se passe de particulier à Yom Kippour pour effacer la vérante? Qu'est-ce qui est de particulier à Yom Kippour?
C'est pas forcément Yom
Kippour. C'est Yom Kippour, c'est le jour pour ça, le jour qui fait pour ça. Ça peut se passer toute l'année, mais c'est surtout Yom Kippour. Qu'est-ce qui se passe à Yom Kippour? C'est très simple. Ce qui se passe à Yom Kippour, c'est que les Bnei Israël arrivent à éveiller le niveau de Rachamim, le niveau de la miséricorde. Et quand on arrive à éveiller le niveau de la miséricorde, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on a supprimé le nuage et qu'automatiquement, il n'y a plus de saleté. Bien sûr qu'on le voit.
Mais dans ce cas-là, comment on fait pour fauter après? Quel est le processus qui nous
dit, on essaie de faire des choses?
Le problème, c'est comment on fait pour ne pas poser, lui?
Non, mais après, c'est Rachamim. Quel est le processus qu'on retourne dans le... Si on n'est plus dans le cycle de la situation...
Est-ce qu'une personne va aller faire une Avera? Est-ce qu'une personne... Je vais t'expliquer, c'est très simple, la réponse est très simple. Est-ce qu'une personne va aller faire une Avera le soir de... à la sortie d'un petit pot? Certainement non. Il va attendre comme le lendemain, le surlendemain, ou 3 jours plus tard, ou 4 jours plus tard. Bon, on va savoir.
Ça dépend si c'est un samedi soir. Alors,
je vais t'expliquer c'est quoi le piège du Yetzara, c'est très simple. Le Yetzara, par exemple, il va te faire dire un Lashon Hara, par exemple. Qui est Lashon Hara? Tu dis, c'est rien.
Walou.
D'accord?
Il
va te dire, c'est Walou, c'est rien, c'est un petit Lashon Hara. Sauf que comme, qu'est-ce qu'on a expliqué? Qu'un petit Lashon Hara peut te faire un gros nuage. Donc après, une fois que le nuage est là, après c'est fini, t'as déjà pris. Le plus dur pour le Yetzara, c'est de nous faire la première Avera après la Teshuva. C'est ça, c'est le plus dur. Après, une fois que tu as déjà fait la première, après c'est une chaîne, après c'est pas un problème pour lui. Retenez ça, toujours. Le plus difficile pour le Yetzarara, c'est de nous faire la première Avera. C'est comme un commercial. D'accord? Le plus dur, même si j'ai envie de présenter 100 produits au client, le plus dur, d'accord, un dealer, le plus dur c'est quoi? C'est qu'il soit intéressé par un produit. Une fois qu'il a pris le premier produit, après c'est fini, il suivra.
Le premier, oui.
Le premier Game Boy.
D'accord. Après c'est fini. C'est trop tard déjà, c'est déjà trop tard.
Sans que les gens cachent des Game Boy à leurs enfants,
c'est ça. Incroyable. Ça c'est le piège. C'est pour ça qu'ils nous prend les temps. Après on comprend pas comment tu te retrouves avec une pile d'Averot. Mais la chance qu'on a, ce qui est rassurant, ce qui est profondément rassurant, c'est qu'au moins on sait que quand on fait une teshuva liée à Rachamim, c'est-à-dire que la personne comprend qu'il est au pied du mur. Et c'est ça, et c'est intéressant parce que quand j'ai lu beaucoup d'histoires de gens qui racontent leur teshuva, et très souvent c'est ce sentiment qui revient. C'est des gens qui ont compris que leur vie ne menait nulle part. Leur vie ne menait nulle part, ça allait nulle part.
Exactement.
C'est ça pour moi, ça c'est Rachamim. C'est ça Rachamim. C'est une personne qui comprend qu'il est au pied du mur, et qui va nulle part. Il a réalisé, il a compris, il perçoit. Ça c'est Rachamim. Là c'est une teshuva béton.
Donc c'est Hachem qui lui fait percevoir.
Non, c'est Hachem qui l'aide, mais il y a aussi un travail de perception de la personne, de réflexion de la personne, d'introspection.
Est-ce que la perception, elle vient de l'introspection, Ou la perception, c'est un cadeau d'Hachem.
Dieu, il envoie des fois des coups de pouce. Oui, mais c'est un travail personnel.
Oui, mais la perception, c'est lui qui envoie.
C'est là où le Barley Tchouva est plus haut
que le
Tzadik.
Bien sûr.
Parce qu'il arrive à...
Eh oui, il arrive à avoir Rachamim. Alors que le Tzadik, c'est très très dur pour le Tzadik d'aller arriver d'aller chercher Rachamim. Il n'arrive pas. Parce que le Tzadik n'a pas besoin d'aller chercher Rachamim. Alors il doit essayer d'essayer d'avoir de la peine pour Averot, d'autres personnes, pour essayer. Mais ça sera jamais la même chose que quelqu'un que c'est Averot et que c'est lui qui est au pied du mur. Tu pourras jamais comparer. Quand c'est mes Averot, c'est moi qui est dans le pied du mur et c'est moi qui est embêté, mais ça n'a rien à voir. Et c'est intéressant parce que beaucoup d'histoires, j'ai lu des gens qui racontent leur teshuva, c'est toujours ce même sentiment qui revient. Ils disent, je sentais que ma vie allait nulle part. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est ça, Rachamim. Ce qui se passe à ce moment-là, lorsqu'une personne réalise que sa vie ne mène nulle part, il est au pied du mur, c'est Rachamim. Dès qu'on a Rachamim, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu ? Venake ! Il nettoie. Ça veut dire quoi, il nettoie ? Ça veut dire que les nuages ne font plus aucun effet. Ça fait plus rien. C'est comme si il n'y a pas de nuages, il n'y a plus rien. Les nuages, on les a supprimés. On a amené quelque chose qui est plus fort que les nuages. Ou comment chez Katouf, comme c'est écrit, Venake ! Comme c'est écrit Venake, ça veut dire quoi Venake dans le Vayavor ? Menake ou la Shavim ? La Gemara Yoma elle dit, ça veut dire quoi Venake ? Ça veut dire, la Gemara dit, ça veut dire Menake ou la Shavim, Akadosh Baruch Hu nettoie à ceux qui veulent faire Teshuvah. Pourquoi ? Après, il ne nettoie pas pour tout le monde. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Parce que celui qui a décidé de retourner, Akadosh Baruch Hu va nettoyer. Comment il va nettoyer ? Les Rots, alors bon, je sais que c'est des notions qui sont reprises un peu par Imar Shema, par d'autres religions, mais c'est des notions qui sont dans la Gemara. L'ichot, velenakot nafsham, de laver et de nettoyer leur âme, milevushim atsoim em achitsonim. Que lorsqu'une personne fait une teshuvah comme ça, il va nettoyer son âme de vêtements extérieurs, de vêtements négatifs qui se sont greffés à lui. Alors ça, j'aimerais expliquer un peu ce que ça veut dire. C'est quoi un vêtement ? D'accord ? Alors, c'est quoi la différence entre un vêtement et mon corps ? Mon corps, c'est moi. D'accord, mon corps, c'est moi, ça sera toujours moi. Bon, c'est mon essence. C'est quoi le vêtement ? Le vêtement, c'est l'image que j'ai décidé d'avoir. D'accord ? Par exemple, j'ai envie d'avoir un look cool, sport, je vais mettre des vêtements de sport. C'est quoi en fait ? J'ai envie d'avoir un look classe, je vais mettre des vêtements classe. Donc ça veut dire que le vêtement, c'est l'image que j'ai envie d'avoir. C'est quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qui est extérieur à moi, mais c'est quelque chose qui a une influence très forte sur moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? D'accord.
C'est ce que je voudrais être, en fait.
Non, c'est l'image que j'ai envie de donner. Ça, c'est le levouche. Ça, c'est le levouche, le vêtement. Bon. Alors, c'est quoi le levouche atsoïm ? Le levouche atsoïm, c'est là que ça veut dire comme ça. Ça veut dire que tout juif, au fond de lui, c'est un tzadik. Ah oui, au fond de nous, on est tous des tzadikim. On a une nefesh elokit, une âme divine, etc.
Sauf que,
non mais attendez, écoutez bien ce que je viens d'expliquer ici. Sauf que, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'on fait une avera, c'est comme si qu'on va enfiler un vêtement sale. Parce qu'on va se mettre dans un état d'esprit sale, c'est comme le vêtement. C'est-à-dire que je peux être moche derrière les vêtements, mais je mets des beaux vêtements qui cachent tout et que je suis très classe. C'est la même chose. Ça peut être l'autre côté aussi. Rien qui peut être très classe, mais il a mis des vêtements horribles. Il a tout gâché. Donc nous, au fond de nous, on a tous une grande neshama extraordinaire, on est top.
Et de beaux vêtements.
De très beaux vêtements. Mais qu'est-ce qui se passe ? Chaque fois qu'on fait une avera, on met à chaque fois une chemise sale.
C'est
une chemise sale. Ah, non, mais c'est pas seulement un nuage, parce qu'un nuage, le nuage c'est plus haut que nous. C'est extérieur. Là, le vêtement, c'est sur nous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec... Non, mais attention. Regarde où je vais en arriver. Ça veut dire qu'avec le temps, on devient sale. C'est ça ce que ça veut dire. C'est pas seulement qu'on vit dans un monde sale. On devient soi-même sale. Bien qu'au fond de nous, on est propre, on devient sale comme un goy. C'est ça, les levushim achitsonim. Eh oui. On devient sale. D'accord ? Ça veut dire qu'on se met à réfléchir comme un goy, on se met à regarder comme un goy, à écouter comme un goy, à parler comme un goy. Ça, c'est les vêtements. Les vêtements, c'est les manières de s'exprimer. Voilà, ça veut dire que, qu'est-ce que j'ai dans ma tête ? C'est les mots que je vais utiliser, c'est les mots d'un goy. La manière de réfléchir, c'est la manière de réfléchir d'un goy. Tout ça, c'est des vêtements. C'est des vecteurs de communication. On est d'accord ? C'est-à-dire que dans ma tête, je vais réfléchir comme un goy, je vais parler comme un goy, je vais aller au même endroit qu'un goy, je vais avoir les mêmes envies qu'un goy. Ça s'appelle être un goy. C'est les vêtements d'un goy. Les vushim achitsonim. Or, ça, c'est le plus grand piège. Parce que même si intérieurement je suis bon, mais concrètement, comme j'ai des vêtements sales, donc je suis sale. Donc celui qui me regarde va dire celui-là, il est dégueulasse, excusez-moi du terme. C'est le terme.
Ah, il faut demander des rachamim aussi.
Alors, c'est. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne demande rachamim ? Explique le mot à Zaken. Non seulement qu'il va changer quelque chose en haut. que en haut, il va enlever des nuages, il va bouger des choses. Mais c'est pas seulement en haut. Nous dit l'Admor HaZaken, Vechen Mamash Lemata, même Mamash sur lui. Pas besoin d'arriver dans les nuages qui le séparent entre sa Neshama et lui, c'est des choses qui sont abstraites. En même lui-même en lui. Avec le temps, avec toute la vérote qu'il a fait, il est devenu sale. Et comment une personne sale, qui est tellement sale, tu peux le rendre propre? C'est pas possible, il y a un problème. Il faut enlever tous ses vêtements. C'est le temps que ça prend pour enlever tous ses vêtements. La teshuva peut avoir un effet magique. Lorsqu'une personne fait teshuva, une teshuva sincère dans laquelle il réalise qu'il est au pied du mur, tous ses vêtements sales disparaissent. C'est comme si qu'ils n'ont jamais existé. C'est ce qu'il dit à Admor HaZaken. C'est ça ce qu'il dit ici, que les rots ou les nakot nafsham, leur âme va être nettoyée et lavée, milevushim atsoim, des vêtements tsoim. Tsoim, c'est tsoim, en hébreu, c'est tsoa, d'accord? Tsoa, en hébreu, c'est de l'excrément. Des vêtements, d'accord? Souillés. C'est le vêtement du rachat. Ça veut dire que, quand je fais une avéra, je mets des vêtements de rachat. Alors après, avec le temps, j'ai un look de rachat. Donc, avec le temps, après, à force d'avoir un look de rachat, eh ben, je deviens un rachat. Ça veut dire que dans ma peau, je suis un rachat. C'est ce qui se passe. C'est ce qu'on dit, on sait très bien qu'une personne, que les vêtements qu'on porte ont une influence sur notre manière de nous comporter. D'accord? Une personne qui s'habille classe, automatiquement, dans sa démarche, il va commencer à se comporter comme quelqu'un de classe. Ça a un impact sur la personne. On connaît l'histoire avec Admor HaZaken. Admor HaZaken, il dit la chose suivante dans l'écouté Torah. Il dit que les vêtements, bien que c'est quelque chose d'extérieur, ça peut avoir un impact très profond sur la personne. Et il avait une histoire avec un de ses petits-enfants. Un de ses petits-enfants, oui, c'est-à-dire que la vie fait le moine.
Bien sûr.
Oui, bien sûr que la vie fait le moine. Parce que lorsque le rabbin met les vêtements de rabbin, ben, automatiquement, il doit se comporter comme un rabbin. Il avait un de ses petits-enfants.
La vie fait le rabbin.
Un de ses neveux.
C'est pas le moine, mais
qui s'est marié. Quand il s'est marié, il a reçu, beaucoup d'argent en mariage. Et il commençait à s'acheter des beaux vêtements, très très beaux vêtements. Mais c'est pas simplement qu'il s'agit de beaux vêtements pour être bien et pour être présentable. C'est vraiment, il mettait toute sa tête dedans. Vous savez, les gens qui ont la tête dans les fringues. D'accord? Et c'est pas une femme qui le fait pour faire plaisir à son mari. C'est un homme qui le fait parce qu'il a la tête dedans. Bon. Alors, l'Admor HaZaken l'a supplié. Il a dit, je t'en prie. Est-ce que tu peux arrêter? Alors, dans l'histoire, on raconte, il dit que c'est lui-même qui a raconté. C'est que, ce qui faisait la classe de sa démarche, de ses vêtements, c'était une ceinture. Il avait une ceinture magnifique. Mais c'était THE ceinture. Je dis, écoute, donne-moi la ceinture. Donne-moi la ceinture, je la garde. Je te la paye. Une fois, deux fois, trois fois, je la paye. Jusqu'à la fin, il est parti lui dire, je te donne mon Gan Eden. Donne-moi ta ceinture sur le Gan Eden. L'autre, il a refusé. Il l'a pas donné. Et après, à la fin de sa vie, il a regretté, mais c'est déjà trop tard. Pourquoi? Tellement il avait la tête dedans. C'était intéressant pour lui. D'accord? tellement il avait la tête dedans, ça l'intéressait. Non, écoutez bien.
Beau, hein.
Et l'Admor HaZaken, quand il a vu cette histoire, il a expliqué que là, on voit clairement comment les vêtements, ça va avoir une influence très forte sur la personne. À cette époque, il ne veut pas les lâcher. C'est-à-dire, c'est pas simplement quelque chose d'extérieur et que bon, je les mets maintenant, mais je pourrais les enlever un autre jour. Non. C'est mon identité. Ça m'appartient, c'est moi. Ça, ces vêtements, c'est moi. Alors, pourquoi je vais mettre cet exemple? Ça pour expliquer de la même manière pour une avéra. Lorsqu'on fait une avéra, c'est la même chose. Après, quand je fais une avéra, du coup, c'est qui moi? C'est l'avéra. Alors, ce qui est rassurant, c'est que c'est la même chose pour une mitzvah aussi. Lorsqu'on fait une mitzvah, on est imprégné par... On s'habille du mitzvah. C'est pour ça qu'il faut s'efforcer d'avoir un maximum de mitzvot. Je sais qu'on fait de l'avérot, on fait tous de l'avérot. Il faut s'efforcer d'avoir un maximum, d'accord? Un maximum de mitzvot. Pourquoi un maximum de mitzvot? Parce que c'est très simple. Chaque mitzvah que tu mets un beau vêtement. Donc il faut s'assurer pour avoir plus de beaux vêtements d'avoir plus de beaux vêtements que de vêtements sales. C'est comme une personne, vous voyez, une personne qui est habillée. Bon, il est habillé très classe, mais bon, il a l'écharpe, c'est pas ça.
C'est pas ça dont on parle là.
Deux secondes. Je vais arriver tout de suite. Il est habillé très classe, mais bon, l'écharpe et les chaussures, c'est pas trop ça. C'est pas très grave. Pourquoi c'est pas très grave? D'accord? C'est pas très grave parce que le reste est ok. Donc ça va, ça passe. Comme il dit, ça passe. C'est la même chose. Nous, quand on fait beaucoup de mitzvot, d'accord? Ça passe. Bon. Alors là, comme David dit, Admor HaZaken ici, il va encore plus loin que ça. Il dit non. Il dit que lorsqu'une personne fait teshuva avec rachamim, lorsqu'une personne démarre sa teshuva et qu'il sent qu'il est au pied du mur, à ce moment-là, dans sa tête, il sent qu'il est clean, qu'il est propre. Comment il se sent qu'il est propre? Est-ce que c'est une illusion? Vous savez, quand on fait teshuva, à ce moment-là, on sent que on a tourné la page. Mais est-ce que c'est une illusion ou c'est vrai? C'est vrai. C'est pas une illusion. C'est vrai, parce qu'à ce moment-là, il a supprimé les vêtements son identité, voilà, on va appeler ça son identité de rachat. Il a supprimé son identité de rachat. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est qu'après, lorsqu'il va refaire d'Averot, il va reprendre petit à petit une identité de rachat. Qu'après, il devra combattre avec ça, comme tout le monde, comme tout juif, d'accord, qui doit combattre toute l'année. Mais la première fois qu'il a fait Teshuva, qu'il se sent au pied du mur, il a supprimé l'identité de rachat. Ça veut dire que ce que veut expliquer Yisrael ben Razaken, que la Teshuva, c'est pas simplement quelque chose d'abstrait qui se passe en haut. C'est là qu'avec ça, on répond à la question de David il y a un mois et demi. D'accord? C'est pas seulement quelque chose qui se passe en haut, que je sépare le nuage, etc. C'est quelque chose de physique, de concret. C'est mon identité. C'est que j'avais une identité de rachat, je réfléchissais comme un rachat, je me sentais comme un rachat. Et lorsque je fais Teshuva, qu'est-ce que je sens? Je sens que je ne suis plus rachat, que je viens de changer. Profondément, intérieurement. Ça, c'est la Teshuva, c'est l'initial de Morazaken. Que moi, je suis Katouf Bigmara, mais la Fefato. La Gmara, elle dit, au début du traité Sota, elle dit comme ça, elle dit que lorsqu'une personne fait une Avera, chaque Avera qu'une personne fait, la Avera va l'envelopper. Et elle l'accompagnera jusqu'au jour du jugement. Ça, c'est dans le cas dans lequel la personne n'a pas fait Teshuva. C'est ça, ses vêtements.
Tu vas sur ça ou Teshuva?
Ça veut dire que lorsqu'on va arriver en haut,
mais tu
d'accord,
vas sur cette Avera, ou surtout.
Non, ou tu vas en général, comme ça m'a fait expliquer. Ça veut dire que lorsqu'on fait une Avera, qu'est-ce qui se passe? On prend un vêtement. Et lorsqu'on va arriver en haut, qu'est-ce qu'on verra? On se verra soi-même. On verra à l'intérieur, c'est bon, mais on aura des tas de vêtements, des paquets de vêtements. C'est comme Maradi. Mais là, c'est Fato. C'est comme Fato. Mais là, Fato, c'est comme si je vous dis, on enlace quelqu'un. C'est enlacer sans laisser aucun vide. C'est ça, c'est la Vera. La Vera, elle nous attrape, elle nous laisse aucun vide. Ça veut dire que, après, progressivement, on se met à avoir une identité de rachat. C'est-à-dire, c'est qui moi? Je suis rachat. Je suis devenu rachat.
Et dans ces systèmes, est-ce que la mitzvah détruit la couche de la Vera? Ou alors est-ce qu'elle vient...
Ah non.
C'est une surcouche.
C'est plus fort qu'une mitzvah, là, parce qu'une mitzvah n'a pas la force de supprimer cette couche-là. Une mitzvah, elle peut simplement rajouter d'autres couches. La force de Rachamim, c'est qu'il te supprime complètement, comme si ça n'a jamais existé. Il te donne un nouveau corps. C'est énorme. Ça, c'est la Teshuva. Ça, c'est Rachamim. D'accord? Donc, moi, je suis Katoub Begmara, mais la Fato. Alors, on met Achar, donc maintenant, la Morazaken va expliquer qu'est-ce que c'est Teshuva Ila. Donc là, ce que je viens de vous expliquer, c'est Teshuva Ila. Ça arrive très rarement dans la vie d'un homme, cette Teshuva que je viens de vous expliquer. Sentir vraiment qu'on est au pied du mur. Même ceux qui ont fait Teshuva, qui ont fait une grande Teshuva, ils vous diront que ce sentiment-là de se sentir d'être au pied du mur, ils l'ont eu une fois dans leur vie. Après, il n'est plus jamais revenu. C'est très rare, il revient pratiquement jamais. Parce qu'après, on prend une routine. Après, c'est fini, je suis déjà religieux, et après, c'est plus la même chose. Avoir le sentiment que je suis au pied du mur, c'est un sentiment qui est très très dur. C'est pour ça qu'on l'appelle Teshuva Ila'a. On en avait parlé au début du Perek Dalet du 4e chapitre. Quelle est Teshuva d'en bas? C'est la Teshuva qu'on fait tous les jours. Bon. C'est-à-dire qu'on a envie de mieux se comporter, on aimerait être une meilleure personne, et qu'à chaque fois, même si on a fait une avéra, on regrette. Ça, c'est teshuva, la teshuva d'en bas. Mais il y a une teshuva béton, teshuva ila. Cette teshuva, la teshuva, si on arrive à l'obtenir même une seconde, même un instant, même un jour, elle a un effet sur toute la vie. Ça veut dire qu'après, une fois qu'une personne est passée une seconde par ça, c'est un effet sur toute la vie. D'accord? Qu'est-ce qui se passe?
Il n'est pas concentré, Yaakov, du tout.
Si, il écoute très bien, t'inquiète pas.
Je doute.
Alors, on met un rat, chez Roua.
Oui.
Après,
je vais lui poser une question, Yaakov.
Ça, c'est la Teshuva d'en haut. Quoi? Non. Quand je dis la Teshuva d'en haut, ça ne veut pas dire qu'elle vient d'en haut. C'est-à-dire, c'est une Teshuva suprême.
Oui. Ok, mais. À quel moment?
Ah, d'accord.
Il n'y a pas personne qui décide.
Il est concentré.
Yom Kippour, c'est un moment propice pour ça, mais ça ne veut pas dire Yom Kippour, tu vois bien, comme il dit Guy, après Yom Kippour, on peut repoter.
Il faut préparer Yom Kippour.
Je pas dit ça.
Si,
t'as
dit comment.
Non, il a dit comment on peut.
Donc ça veut dire c'est ça. Oui, donc si tu parles de la base, ça arrive.
Comment je peux voter, mais comment quelqu'un qui est prof,
c'est ça.
Comment un enfant né qui vient de naître peut voter.
Oui,
il vient de naître.
Il a fait des jeux électroniques, des Game Boy, tout ça.
Mais
puis
il est
après
neuf.
Ça l'amène à des trucs machin.
Mais il est neuf.
Petit à petit, il arrive à des jeux violents, regarder la télé, après boum, ça y est,
c'est parti. C'est comme ça.
C'est intéressant de comprendre comment quelqu'un de neuf, comment quelqu'un de blanc arrive
c'est
à...
C'est l'éducation, ça. C'est l'éducation. C'est comment ils appellent ça, l'impact socio-environnemental.
Ça dépend où tu l'amènes à l'école, ça dépend où tu l'amènes en vacances, ça dépend ce que tu lui fais voir.
Non, quand je disais quelqu'un de neuf, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait sa tchouva, et qui est parfaite.
Regarde, c'est pas compliqué. Lorsque l'enfant y voit que lorsque son père a perdu 2000 euros, il pique une crise de nerfs, et lorsque son père a raté Mincha, il reste zen. L'enfant a perçu un message.
Tu vois ce que je veux dire?
Et personne ne sache que, que l'argent c'est important, et que la Torah c'est aussi important, mais bon, c'est pas grave si on n'a pas fait. C'est le message.
Il a raison, c'est parce que dans le Pérec d'avant.
Donc après il comprend. Un enfant, les enfants ils perçoivent très très rapidement des repères.
Je parlais pas d'un enfant.
C'est nous, c'est la même chose. C'est nous l'enfant, oui, c'est la même chose. C'est qu'on commence, j'ai expliqué, on commence par les petites avérantes. Mais le problème, le piège qu'on se rend pas compte, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de petites avérantes. Parce que il y a des avérantes qui nous paraissent insignifiantes, mais qu'elles vont former un nuage aussi grand qu'une avéra très grave.
Mais là, on parle d'une teshuva parfaite.
C'est comment ça arrive?
De tout nettoyer.
Une fois que tu as fait la teshuva à ce point-là, que tu as été tout à fait nettoyé, et que tu as perçu le message, etc., comment ça peut revenir?
Ce que j'ai expliqué, c'est qu'après tu vas te retrouver à faire une avéra qui te paraît insignifiante.
C'est pas ça la réponse que tu avais donnée il y a un quart d'heure. Oui. Dit, une fois qu'on a goûté à l'avéra, il y a toujours le souvenir.
Non. Alors comment? Pas pour ça. Non. Alors, ça supprime ça. Rachami se supprime. Non. La réponse est là. La réponse c'est qu'après le Sahara quand même va nous attraper, va nous trouver par des petites choses.
Ouais, homéopathique.
Mais on a dit qu'on était au-delà de la citra Ahara.
Oui.
Qu'on n'était plus dans ce cycle.
Mais après c'est moi qui l'ai après. J'ai compris, mais je suis pas devenu sadique.
Voilà.
Je suis pas devenu sadique. Ça veut dire que maintenant je suis propre. Je suis propre. Mais après le Yetzahara, ça veut dire que le Yetzahara maintenant, il va pas te reproposer une grosse avéra parce qu'il sait que t'es propre. Tu comprends? Quelqu'un qui est très propre, tu vas pas lui proposer un vêtement très sale. Il va dire, non, ça se fait pas pour moi. Il va te proposer un vêtement qui est un petit peu sale. Bon, ça va, c'est une petite tache, pas grave, c'est rien. Sauf que cette petite tache, elle a un effet tellement grand que c'est comme si que la personne est dans une église, c'est la même chose.
Tu as habitué une petite tâche, après une tâche un peu plus grosse.
Après c'est fini, après il m'a bloqué. Une fois qu'il m'a enveloppé, le plus dur c'est la première avéra.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on est coincé?
Je me rappelle une fois j'avais entendu comme ça une Rachana Rav qui avait dit le plus dur pour le Yetzara, c'est de nous faire faire la première avéra après un kippour. C'est le plus dur pour lui. Une fois qu'il a fait la première avéra, ou bien une personne qui a décidé de ne plus recommencer quelque chose. La fois qu'il va recommencer après, il va se dire, bon, je recommence qu'une fois, c'est fini. Il va déjà recommencer, il est cuit.
Ouais, c'est vrai.
Trop tard. C'est la première qui est la plus grave. Une fois que tu as commencé une fois, c'est fini, c'est cuit. Oumehachar, chez Ruach Avra Utetaharem. Puisque Job nous dit, il dit que Ruach Avra Utetaharem. Iov, là-bas, il nous parle de gens qui étaient des grands Rechaïm, et qu'il y a un esprit qui est passé, et qui les a purifiés. De quoi il parle quand il parle d'un esprit qui est passé et qui les a purifiés? C'est de ça qu'il parle. C'est ça l'esprit qui est passé et qui les a purifiés. C'est l'esprit de Rachamim qui vient et qui purifie, c'est de quoi purifier, c'est-à-dire qu'il supprime comme si il n'y a jamais rien eu ici.
Parce que les Rechaïm,
c'est propre.
Ils sont trouvés au pied du mur, mais on veut la force de faire des
Bien sûr. D'accord. Azaï, Tuchal Navsham, Lashuv, Ad Hashem Baru, Ad Avaye Baruchum, Mamash, Vela Alot, Maala, Maala, Nimkora, ou le Dov Kabo, Biyuchud Nifla. À ce moment-là, la personne se sent très très proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les gens qui font Teshuvah vous diront que les moments dans lesquels ils se sont sentis le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est le moment dans lequel ils venaient de faire Teshuvah. Pourtant, c'est pas logique. C'est pas logique. Parce que, à ce moment-là, ils ont très très peu de connaissances. Ils connaissent rien à ce moment-là. Normalement, ça devrait aller en crescendo. Plus ils avancent, et plus ils devraient réaliser, plus ils devraient comprendre, et plus ils devraient kiffer, plus ils devraient sentir proche d'Akadosh Baruch Hu. Pourtant, c'est le contraire. Plus ça va avancer, et moins ils se sentiront proches d'Akadosh Baruch Hu. De là, on comprend quoi? On comprend que ce sentiment de proximité avec Akadosh Baruch Hu n'est pas du tout lié à la compréhension. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec la propreté de la personne. Ça n'a rien. Le sentiment de proximité d'une personne avec Akadosh Baruch Hu, ça n'a rien à voir avec ce que je comprends, ce que je comprends pas. On peut avoir des gens qui sont ignorants, mais qui se sentent très proches d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ils sont très proches d'Akadosh Baruch Hu? Parce qu'ils sont propres.
Ils sont raffinés.
Ils sont propres. Il n'y a pas de saleté.
D'accord. Mais comment tu
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui qui a fait Teshuva, lorsqu'il a fait Teshuva, il a fait une bonne Teshuva, Rachamim, il était propre. Donc comme il était propre, à ce moment-là, il s'en approche de Kadosh Baruch Hu. Après, peut-être qu'avec la suite, il va plus étudier, il comprendra plus, mais il sera plus aussi propre. Donc puisqu'il sera plus aussi propre, peut-être qu'il comprendra mieux, mais il se sentira moins proche, il percevra moins.
Ça peut être instantané, ça, alors.
Ça peut être instantané. Ça, c'est un sentiment, on se sent proche de Kadosh Baruch Hu.
Avant le process de Teshuvah.
C'est le process de Teshuvah.
Non, avant.
Non. Le process de Teshuvah, c'est que je me sens au pied du mur.
C'est ça.
Je dis, ça y est, il faut que
tu t'arrêtes. Mais le moment où je me sens proche, c'est le moment justement où je ressens ce sentiment. Et après, je vais progresser, me rapprocher de Dieu. Donc la Teshuvah, voilà.
Mais ça ne peut pas durer, parce que le Sahara va te reprendre.
Mais parce qu'après, tu me dis que tu seras moins blanc, mais... Tu vas étudier, tu vas prendre la route, etc.
Oui, mais encore une fois, mais c'est pas ça ce qui nous rend. C'est ce qui explique le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov expliquait que ce qui fait la proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas les connaissances. Vous avez des gens qui sont ignorants, qui sont proches de Dieu, et vous avez des gens qui sont des grands savants, qui sont très très loin de Dieu. c'est pas la sagesse, mais... c'est pas la connaissance qui fait la proximité avec Dieu. Alors... Ce qui fait la proximité avec Dieu, c'est la propreté de la neshama, la propreté de la personne. Combien de vêtements sales il a et combien de vêtements propres il a.
Mais ça c'est déjà les vêtements sales, c'est la verote et les mitzvot.
Voilà. Donc après, c'est quoi après... une fois qu'on a fait une teshuva comme ça, notre rôle, c'est d'avoir un corps le plus propre possible. On dira pas que tu n'auras pas de saleté, mais d'avoir un corps le plus propre possible. Ça, c'est la teshuva.
Bizarre.
Mais on peut penser quelqu'un qui
non,
a pas...
Non, moi, je pense que c'est pas du tout bizarre. Ça explique beaucoup de choses.
Tu fais une teshuva, mais
ça explique comment ça se fait. Il y a plusieurs personnes qui ont fait teshuva. Plusieurs personnes qui m'ont raconté. Ils m'ont dit que ce sentiment qu'ils ont eu lorsqu'ils ont fait teshuva, le feu qu'ils avaient comme ça, ils l'ont jamais retrouvé.
Mais est-ce que ça...
Jamais. Pourtant, ils connaissaient rien.
Mais parce que le feu,
c'est des gens qui s'enflammaient. Ils s'enflammaient de Shabbat.
Est-ce que c'est le
ils venaient, ils lisaient un livre de prière, ils comprenaient rien du tout. Ils s'enflammaient de rien du tout. Ils disaient, mais de quoi je m'enflammais? Je comprenais rien du tout. Ils voyaient le mot HM, ils disaient, HM, qu'est-ce que t'as compris? Il a rien compris. Pourquoi ils s'enflammaient? Parce que je suis en train d'expliquer, c'est pas les connaissances le plus important. Le plus important, c'est la propreté. C'est pour ça qu'un enfant, comment on dit, Mipi, Rolelim, Veyonkim, Isat Oz. Qu'est-ce qu'il dit David Améler? Il dit que les filotes des enfants, elles ont un impact extraordinaire auprès d'Akadosh Baruch. Pas parce qu'ils comprennent, un enfant ne comprend pas. Parce qu'un enfant, cette filotte est pur. C'est pur. L'air qui sort de sa bouche, c'est pur. Il n'y a pas de vêtements sales, c'est pas sale. Donc ça a un impact extraordinaire auprès d'Akadosh Baruch.
Mais tu m'en fais une valeur alors ça n'a pas d'avenir.
But, non, ça n'a pas d'avenir.
Ça n'a pas d'avenir, puisque tu retrouveras jamais cette salle-là, et que plus tu vas être furieux en Torah ce qu'on te demande, et moins tu...
Et cette teshuva, tu peux la faire autant de fois que tu veux.
Bah non.
Si.
T'as dit, on l'a fait...
Bah, j'ai dit dans les faits, ça arrive, ça arrive... Non mais ça arrive.
Ça n'a pas de sens.
Bien sûr ça arrive, ça arrive Yom Kippour par exemple.
Ça n'a pas de sens.
Yom Kippour, ça peut arriver ça.
Ça n'a pas de sens. Le gars, il est ignorant, mais il est pur, il est propre, donc il a une proximité avec Kadosh Baruch Hu. Ensuite, ben, qu'est-ce qu'il va faire au bout d'un moment?
Ça peut être que décroître.
Il va se mettre dans la Torah, il va apprendre la rose, etc., etc. Il va prendre des petites avérotes par-ci par-là, etc. Et après, il va revenir. Il sera moins propre qu'au départ.
Non,
ça
pas. Non, mais qu'est-ce qu'on fait?
En général, on dit que par rapport à ces choses-là, c'est mieux d'être bête. Les gens qui sont bêtes, d'accord, en général, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'avérotes. Ils n'ont pas l'esprit vicieux comme ça. C'est vrai en plus. Les gens qui sont bêtes. Oh, ils restent relativement propres.
Oui, ils vont pas voler.
C'est que quand ils font une avéra, ils la font pas intentionnellement.
Non, mais ça veut dire qu'ils ont même pas. Ça veut dire qu'ils sont pas sales. Voilà, ils sont pas sales. C'est pas sale. Il y a pas la saleté.
Ils font une avéra sans être sales.
C'est comme un gosse. Tu comprends? Un gosse sur ce qu'il va faire une bêtise. Il aura pas le comment on appelle ça? La saleté qu'il y a derrière l'adulte lorsqu'il fait l'avéra. C'est pour ça qu'il reste
le
pur.
Il y a pas de calcul.
C'est pour ça que le rabbi il insistait beaucoup de filot des enfants. Mais bien Olivier Yom Kim. Toujours des rassemblements d'enfants.
Tu vois bien que c'est pas ça qu'on vous demande.
C'est pas juste, oui. Tu as raison. Ça c'est un coup de karcher, mais ça peut pas durer. Après, le plus dur, c'est de rester le plus propre dans la vie de tous les jours. Voilà, t'as un karcher qui passe tous les quelques années. Bon. Après, le plus dur, c'est de garder propre le plus longtemps possible. Donc après, tu vois, j'enlève une saleté, j'en rajoute une autre, j'en mets une, j'enlève une autre. Et ça, ce qui va faire, de quoi ça aura l'air. C'est ça. Ça n'a rien expliqué ici. Mais quand c'est le karcher, y a plus rien. Oumahar, Sherouach, Nafsham, donc ça j'ai déjà lu. D'accord. Je vais relire après Oumahar. Vous avez Oumahar, je ne sais pas où quelle ligne on est ici.
C'est
l'heure. Cinquième ligne en partant du bas.
Allez, cinq lignes.
C'est l'heure.
Pardon?
C'est l'heure.
Quelle heure il est?
Il est moins 40.
Il est 40, non?
Il est 40.
Oumahar, Sherouach, Avra, Outetaren. Oumahar, Shiruach, Avraot et Taharem, puisqu'il y a un esprit qui est venu et qui les a purifiés, donc c'est ce que Iyov disait. Ça veut dire qu'il y a une teshuva. Donc à ce moment-là, Azaï, à ce moment-là, Tuchal, Nafsham, la Shuv Adavaye Baruchu Mamash, leur âme pourra revenir auprès d'Akadosh, toujours dans la page, en bas de la page là. Quatre lignes avant la fin de la page. Azaï, Tuchal, Nafsham, la Shuv Adavaye Baruchu Mamash, leur Neshama pourra revenir jusqu'à Hashem Mamash, il se sentira proche de Dieu. Velalot mala mala limkora, de remonter de plus en plus haut, encore plus haut et encore plus haut, limkora à sa source où les dof kaboïs barabirchut nifla. C'est à ce moment-là qu'on se sent attaché à Kadosh Baruch Hu, on se sent proche de Dieu de manière extraordinaire. Kmo shaita meyuchedet bo itvarer betachrit eichut beterem shenatra bo rapi itvarer. C'est comme si que c'était avant la création du monde, avant que Kadosh Baruch Hu m'a créé. D'accord. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La conclusion que je vais parce que bon, on fait une fois encore un autre cours pour la suite. La conclusion que je tirais d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a expliqué que dans la vie de tous les jours, dans la majorité des cas, on fait ce qu'on appelle une teshuva tata'a, la teshuva d'en bas. C'est-à-dire c'est une teshuva qui n'est pas liée à Rachamim, qui n'est pas liée à la miséricorde. On invoque la bonté d'Akadosh Baruch Hu, mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que, étant donné étant donné qu'on réalise pas forcément l'enjeu, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va refauter. Ça veut dire comme ça, si je vous pose la question, est-ce que le matin, quand on dit à Kazesh Baruch, Slach, la noix, vinu, kichatanu, pardonne-nous trop bas parce qu'on a fauté, est-ce qu'on est sincère lorsqu'on le dit? La réponse est oui, on est sincère. On est sincère, mais on n'a pas le sentiment qu'on est au pied du mur. Donc, puisqu'on n'a pas le sentiment qu'on est au pied du mur, donc on n'a pas rachamim. Puisqu'on n'a pas rachamim, c'est une teshuva tata, c'est une teshuva d'en bas. C'est une teshuva de bas niveau. C'est quoi la teshuva de haut niveau? C'est lorsque la personne, à un certain moment de sa vie, réalise que sa vie ne mène nulle part. Alors, j'ai dit que c'est lorsqu'une personne fait teshuva. C'est pas que lorsque personne fait teshuva, on va avoir une personne qui a déjà fait teshuva, et que Baruch Hashem, il a pris une routine, et qu'après, à un certain moment, il va avoir encore une fois cette réflexion. Il va réfléchir, il va faire un petit peu le bilan de sa vie, il va voir qu'il y a un problème, que ça mène nulle part, tout ça. Il va sentir un blocage, et c'est très bon de sentir un blocage. Parce que lorsqu'il sent ce blocage, et il sent qu'il est devant le pied du mur, c'est ce blocage qui va faire que, à ce moment-là, il va invoquer la rachamim, et lorsqu'on invoque la rachamim, il y a un effet karcher extraordinaire. À ce moment-là, la personne se sent très proche de la Kadosh Baruch.
Alors,
maintenant, ce qu'on va devoir expliquer, d'accord, c'est premièrement, comment on fait pour arriver à ça dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est seulement quelque chose qui arrive une fois dans la vie, et ça serait bien que ça arrive une fois dans la vie, c'est son numéro 1, d'accord? Et numéro 2, lorsque ça arrive déjà, comment on peut faire pour que ça perdure? Et c'est comme la Noura Zaken formulera ça dans la suite, il dira, on sait par exemple que le Benoni, au moment de cette fille-là, il est considéré comme un tzaddik. Au moment de cette fille-là, il est considéré comme un tzaddik. Donc la question qu'on va se poser après, c'est comment faire pour que pendant, au courant de la journée, qu'il va devoir faire des tas de choses, il va devoir aller au travail, il va devoir voir des choses qui ne sont pas forcément liées à la Torah, qui sont même très très loin de la Torah, comment faire pour que le sentiment de proximité qu'il avait avec Akadosh Baruch Hu reste le plus longtemps possible? C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand on est à la synagogue, quand on est dans un cours, on se sent proche d'Akadosh Baruch Hu. Mais après, tu sors, la proximité va s'en aller. Ça, on va expliquer dans le cours suivant. Mais au moins, on a compris.
Ça, il faut demander Rachamim pour ça.
Oui, j'ai compris, mais après, mais une fois que tu as demandé à Rachamim et que tu as nettoyé, comment faire pour garder ce sentiment le plus longtemps possible?
Bah, sinon, logiquement, tu vas
demander. C'est un peu la question de Jacob.
Dieu, il va t'emmener dans le chemin pour garder cette
Mouna. Oui, mais ce que je viens d'expliquer, c'est que tu peux pas avoir le sentiment tous les jours d'être au pied du mur. C'est pas possible.
Oui, on a dit une fois.
Ça, c'est un sentiment qui est, comment dire, c'est un sentiment après, qui est exceptionnel. Voilà. C'est un sentiment qui est très rare, ça. Ça, c'est un sentiment qui est exceptionnel, ça arrive pas tous les jours.
Ça dont on parle.
Donc le problème, c'est que quand j'ai un sentiment exceptionnel comme ça, ça peut nous arriver. Vous avez des gens, par exemple, un qui pour sur cinq, ils ont ce sentiment. Le sentiment, il dit, bon, cette année, il faut vraiment que je change, là, j'ai exagéré. Il a un sentiment. Et il était sincère à ce moment-là. Et certainement qu'à ce moment-là, il a eu un sentiment qu'il était devant le pied du mur et qu'il fallait qu'il change, et que Dieu l'a nettoyé, mais après, ça n'a pas tenu.
S'il demande pas à Rahamim, Dieu ne nettoie pas.
Mais non, c'est ce que j'ai expliqué. C'est que Dieu peut te nettoyer, mais après, il suffit que tu fasses une avéra, tu replonges.
Ça, c'est ce qu'on a dit.
Ah oui. Donc comment on fait? Comment on fait pour que ça reste le plus longtemps possible? Mais là, je l'ai expliqué sur le plan général. L'Admor HaZaken va expliquer après même sur le plan d'une journée. Dans une journée. Comment je fais pour que... Il expliquera après qu'on essayera de survivre entre les tfilotes. Comme ça, il aura une expression comme ça. Entre les tfilotes. Mon chacharit, il sera ravi.
Le problème, il est là finalement.
C'est de survivre entre les tfilotes. C'est entre les tfilotes, il y a des ponts à prendre. Tu vois. Et il faut bien passer le pont. Si tu passes pas le pont, tu casses la figure, bon après tu recommences tout à zéro. Il y a des ponts à passer. Comment on fait pour passer le pont sans se casser la figure?
Faut rester toute la journée à la synagogue.
Ah, tu peux pas, tu dois aller travailler?
Je ne
peux
pas te sortir.
Je suis prêt à bouche. Prends. Tu viens à la synagogue,
tu as un cours. T'as
mis les tefilines, t'as fait une bonne fila, tu viens cours le Torah. Tu sors dehors, ça y est, Tahara, il t'envoie comme ça des idées tordues, c'est fini, il a tout pris. Comment tu fais pour garder? Tu verras la semaine prochaine.
Bah, il a dit le rabbi, il faut qu'on récite des Mishnah, qu'on apprenne des Mishnah par cœur et qu'on les récite.
Ouais, mais le Tahara, il te fait oublier la Mishnah.
C'est pas ça, c'est pas qu'il te l'a fait oublier, c'est qu'il te fait oublier qu'il faut que tu l'apprennes. Mais si tu l'apprends et si tu la récites, une va amener une autre.
Ouais. En tout cas, si je peux résumer en un mot, comme ça on se perd pas. En un mot, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est ça.
Ben oui.
D'accord, messieurs. En un mot, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est que Rachamim, quand on arrive à avoir le sentiment qu'on est au pied du mur, on invoque Rachamim, les 13 attributs de la miséricorde, et automatiquement ça amène une propreté extraordinaire à l'homme, qui va procurer à l'homme un sentiment de proximité extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu. Ils sont proches d'Akadosh
Baruch Hu. Comment ça se fait que la personne dont tu parlais tout à l'heure, qui est la personne qui forcément ne connaît pas tellement la Torah,
ignorant,
comment ça se fait que lui, cet état de rapprochement avec Hachem, il dure?
Oui, j'ai compris. J'ai compris la question.
Parce que le verre, comme ça. Le verre, il est vide. Alors, il remplit, mais une fois que le verre, il est plein.
Non, j'ai compris la question. Le Baal Shem Tov, il donne l'exemple suivant. Il dit, lorsque tu as, par exemple, des gens simples qui sont en train de lire des Tehillim. Ils comprennent même pas leur Tehillim. Ça veut dire, ils vont te le lire avec des fautes, tout ce que tu veux. Ça veut dire qu'un érudit qui passe à côté, il va se moquer d'eux. Ouais. Vous comprenez même pas ce que vous dites, ce que vous faites, et vous lisez même pas bien.
Ouais.
Avec la bonne intonation, avec les bonnes écoutettes, etc. C'est du style, des fois, les gens, voilà, ils vont tirer une astara, ils vont faire n'importe quoi, etc. Bon. Ce que le Baal Shem Tov expliquait, il expliquait à chaque fois, hein, que... Non, mais c'est vrai.
Ça y est, vas-y.
J'étais en train de préparer la prochaine.
Non.
Tombé, hein.
Pas du tout.
Non, il y a eu un faux et un vide.
Non, mais il y a eu un vide total.
Au contraire. Au contraire. Non, au contraire. Je m'imagine le vieux Marocain qui va... Le vieux Marocain qui va dire, hey, il sait même pas lire celui-là. Qu'est-ce que vous lisez? De quel droit vous lisez? C'est ce que le Baal Shem Tov disait. Le Baal Shem Tov disait, le plus important, c'est pas de savoir lire. Mais sûr qu'il faut savoir lire. Mais t'as des gens qui sont pas conçus pour ça, ils sont pas faits pour ça, des gens simples. Bon, c'est-à-dire qu'il est pas fait pour réfléchir. Mais ce qu'il a gagné, c'est que s'il arrive pas à réfléchir pour la mitzvot, il sait pas réfléchir pour la verot aussi. Il a une vie très simple, il a une vie de paysan. Mais par contre, ce qu'il a gagné, c'est qu'il est propre. Tu comprends? Ça veut dire que ni il se salit, mais ni il peut devenir très propre.
Mais le but, c'est pas
ça. Le piège de l'intelligence, c'est quoi? C'est qu'une personne qui est intelligente, il peut et devenir hyper propre, mais avoir des choses extraordinaires, et de l'autre côté, il peut devenir très sale. Celui qui est bête, il va rester toujours un petit peu au milieu. Mais par contre, ce qu'il a gagné, c'est quoi? C'est qu'il va avoir, il va toujours être à peu près propre. Et comme il est toujours à peu près propre,
oui.
Comme il est toujours à peu près propre, et ben du coup, il est très proche de la Kadosh Baruch
Hu. C'est-à-dire quand il fait une avéra, ça n'est pas compté comme une avéra. Il est obligé
oui,
de faire une avéra.
Oui, la Gemara dit, oui, bien sûr.
Obligé.
Oui. Quand j'ai passé le permis, je me rappelle le moniteur auto-école, il m'a dit que les gens bêtes, ils ont énormément de facilité à passer le permis. Ils passent très facilement le permis. Et les gens intelligents, il m'a dit, vous les élèves de Yeshiva, vous avez un mal dingue à passer le permis. Vous savez, il m'a dit, les gens bêtes, on leur dit, ils font, c'est tout, il n'y a pas pour eux de la droite, à gauche, de marche derrière, il n'y a pas, on te dit, tu fais, c'est tout. Ils sont propres. Mais quelqu'un qui réfléchit, toujours, quand on te dit quelque chose, il va chercher pourquoi il faut le faire, est-ce que je peux faire autrement. C'est comme ça, c'est instinctif.
Tu veux du premier coup, pas, alors
Attends, il
réfléchit. La première fois, j'ai raté le code, mais la deuxième fois, je lui ai dit zéro faute.
Non, mais tu parlais du code.
Je me suis habitué.
Tu parlais du code ou du permis?
Non, le permis aussi, je l'ai eu, bah, prochainement.
Non, mais tu parles là, dans l'anecdote, tu parlais du code ou du permis?
Les deux. Il m'a dit, les élèves de Yeshiva, parce que lui, il me disait quelque chose, il me dit, mais pourquoi il faut faire ça? Moi, je le rendais fou un petit peu. Bon, comme ça, il faut toujours poser. Toujours, on est curieux. Ça nous apprend la curiosité, la Gemara. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que. Une personne qui est bête.
Piège là où il n'y a pas le piège.
Une personne qui est bête.
Attends,
ouais, dans les questions de
c'est
école,
c'est trop facile. Si c'est ça, ça peut pas être si facile. Il va y avoir autre chose.
Je me rappelle que lorsque j'ai passé la première fois le code, justement, c'est ce qui m'a fait piéger. Je crois que j'ai dû faire 8 fautes, un truc comme ça, parce que j'ai cherché des pièges qui n'avaient pas lieu d'être. C'est-à-dire que j'avais fait des erreurs, tu vois, des erreurs intelligentes, entre guillemets, parce qu'on l'avait appris, le code, on l'avait appris. La deuxième fois, monsieur Cohen, le taux école, il m'a dit, écoute, tu réfléchis comme un khmar, comme ça il m'a dit. Et tu réfléchis pas, tu réponds là. C'est ce que j'ai fait. Je me suis mis dans la tête d'un khmar. J'ai dit, bon, je fais comme si je suis un imbécile. Et ça a marché. C'est ma mâche comme ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que celui qui est bête, il fait pas d'erreur. Il a pas la tête pervers. Donc, ni il peut faire des grandes mitzvot, ni des grandes averot. Mais il reste toujours à peu près propre. Puisqu'il reste toujours à peu près propre, eh ben, cette fille-là a un pouvoir auprès d'Akadosh Baruch Hu. Il est proche de Dieu.
On connaît dans la Torah des gens, par exemple, Abraham.
Oui.
Il a fait plusieurs tshuva, il a...
Oui. Est-ce qu'il a fait, lui-même?
Tshuva, il a...
À des gens ou à lui-même?
À lui-même.
Non, mais Abraham, c'est autre chose. Abraham, c'est un autre calibre.
Oui, mais on s'inspire de lui.
Oui, j'ai compris. Abraham, c'est Merkava, c'est encore autre chose, Merkava. Merkava, c'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de retourner, il est déjà là-bas. Mais encore une fois, le niveau de tshuva, c'est particulier. Parce que le niveau de tshuva, je pense que même Abraham ne l'a pas eu. Même les tzadikis ne peuvent pas l'avoir.
Mais il a fauté lui déjà.
Mais Abraham c'est Yitzhak qui était un grand
tzadik. Ah non, Abraham aussi c'est un grand tzadik. Le vrai sentiment de Teshuva, tu sais qui c'est qu'on prend comme exemple pour le vrai exemple de Teshuva, c'est Rabbi Elazar ben Tourneya. Extraordinaire. Il a eu le sentiment qu'il était au pied du mur. Et que personne ne pouvait le sauver. Il a fait une Teshuva extraordinaire, et que Rabbi Udanassi, il a pleuré, il a dit celui-là, il a son lama-ba, moi je sais pas ce que j'aurai.
Mais...
Il doit avoir un olama extraordinaire parce que il était au pied du mur, donc il les a tous dépassés en un coup.
Oui, mais par exemple, prenons le cas de Abraham où au début, à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit « Va-t'en de chez toi et je te ferai grand », etc.
Oui, oui, oui.
Il lui a donné tout ce qu'il pouvait lui donner
oui.
en parole et lui dire « Bon, maintenant, va-t'en, s'il te plaît.
Mm-hmm. »
Et entre ça, le moment où il a dû lui dire « Je te ferai grand » pour qu'il quitte la maison,
oui.
et la dernière épreuve où il a dit « Sacrifie-moi ton fils
oui. »,
sans aucune autre explication,
mm-hmm.
entre le Avraham du début, l'Echlecha, et Avraham du sacrifice d'Isaac,
il y a un gap énorme.
Parce que Dieu l'a construit.
C'est de ça dont je te parlais. Est-ce qu'il n'a pas eu... Est-ce que c'est
sur
pas...
le teshuva?
Oui.
Je crois
est-ce
pas,
que
non.
C'est pas, c'est plusieurs... Est-ce qu'il a passé...
Teshuva. Non, normalement, teshuva, c'est un sentiment que lorsqu'une personne... Normalement, la teshuva, c'est lorsqu'une personne a fait d'Averot. C'est l'Averot. Enfin, fait d'Averot. Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'un Baal teshuva dépasse de très loin un tzadik.
On connaît une personne qui a fait plusieurs teshuva...
Qui a fait plusieurs teshuva là?
Oui.
Bien sûr, c'est nous.
Amen.
Non, mais c'est ce qu'a expliqué Rav Mordechai.
Oui.
On peut arriver à ça.
Il a
Tu vois, il a. On peut très facilement avoir le sentiment qu'on est au pied du mur. Il suffit de réfléchir.
Ah ouais, mais c'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit quand même que ça arrivait très rarement.
Oui, parce que ça arrive très rarement que ça te secoue au point que tu es pas bien. Tu comprends, quelqu'un qui fait de chouva, il est pas bien. Il est pas bien, il est mal dans sa peau, il sent qu'il y a un problème, il sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Il est pas bien. Ça, c'est un sentiment qui va arriver très rarement. Mais on peut arriver à ça si on veut, mais c'est très dur.
T'as dit on dépasse de loin le physique, on fait
bien sûr.
Mais c'est qu'au début, c'est-à-dire puisqu'après on rentre dans la routine.
Oui, mais au moment où on a fait cette teshuva, on a dépassé le physique. Bien sûr, j'ai compris ce que tu veux. On a un degré de propreté que personne ne peut avoir. Parce que on a supprimé tous les nuages éventuels qui pouvaient exister. Le physique, il a aussi des petits nuages. Là, t'as tout supprimé. Donc t'es propre, t'es clean à un point extraordinaire. On est proche d'Akadajou, proximité d'Akadajou, c'est ça en deux mots.
C'est-à-dire, après la teshuva, on a dit justement, après bon, ça s'atténue, donc c'est-à-dire, si on veut retrouver ce sentiment qu'on avait au début de la teshuva, il faut devenir tzadik.
On ne peut pas devenir tzadik. On ne peut pas décider de devenir tzadik.
Non, mais c'est-à-dire...
Non, après le plus dur, ça va être d'essayer de préserver ce sentiment
ça
le plus longtemps possible.
Aussi, hein.
Le plus longtemps possible. C'est dur, c'est très dur. Hein, comme David, il dit toujours, il me dit, j'essaye de vivre de cours en cours de Tania. C'est ça, dit David.
De vivre toute la semaine avec le cours. Mais on arrive à tenir un jour, deux jours.
C'est ça qu'on
réfléchit. Ça veut dire, il n'y a pas 3 jours sans Torah, c'est trop. C'est qu'on dit ça.
S'il y a plusieurs cours de Tania sur Paris, tu devrais en faire un là, trouver un autre dans deux.
Alors, Rabbi dit 3 jours sans étude de la Chassidoute. Faut pas que ça passe 3 jours sans étude de la Chassidoute. On le fait ici. On a lundi, jeudi, Shabbat.
Ouais,
jeudi.
Jeudi matin.
Oui. Une tirage du rabbi, c'est Chassidoute. Il n'y a pas 3 jours qui passent tant qu'on étudie un peu de Chassidoute.
Jeudi matin.
Sinon, il y a un problème.
Jeudi matin,
allez, t'arrêtes.